bonne journée, bonne fin d'après-midi, surtout bonsoir, c'est Marius qui vous parle. Nous sommes le samedi 15 septembre 2018 et nous voilà réunis pour l'enregistrement du 43e volet de l'Entrepode. Enfin, réunis sans moi car étant de déménagement, je ne pourrais être présent parmi vous, mais Dieu sait que j'aurais aimé être là. Alors c'est la rentrée et tous nos chroniqueurs sont au taquet pour entamer cette nouvelle saison. Aujourd'hui, autour de la table, elle est fraîche, requinquée, après 2 mois de terribles vacances où elle était obligée de ne pas travailler. C'est horrible, mais courage, c'est enfin fini. J'ai nommé Didouille.
Elle n'est pas là.
Lui a affûté sa plume pour nous trouver, comme à son habitude, des questions que personne n'aurait pensé. Il a également hâte que sa moitié reprenne le travail. Hein. C'est clair, ça ne doit pas être simple tous les jours. J'ai nommé Lulu.
Bonjour.
Il est également avec nous avec un punch de rentrée, littéralement métamorphosé. Il va nous faire basculer cette saison en positive attitude avec quand même, je l'espère, quelques bouquins improbables. J'ai nommé Christophe.
Hello.
Change pas complètement.
Il a re-signé pour cette nouvelle saison. Il ne sera pas seul, mais deux. À l'intérieur de lui-même se cachent le docteur Jack Arnaud et Mr. Hyde Fredjin. J'ai nommé Arnaud.
Oui, il y aura qu'Arnaud.
Il y aura qu'Arnaud aujourd'hui.
Tant mieux pour nous.
Ah, et quand on dit rentrer, on dit bonne résolution. Se remettre au sport, s'entretenir, eh bien je pense que le sport est parfois ingrat avec certaines personnes. Le sport est bon pour le corps ? Non, pas tout le temps. Je vous en parlera bien mieux que moi. J'ai nommé Freddy. Bon courage.
Salut.
L'invité de cette nouvelle saison aurait pu venir avec toutes ses petites amies butineuses, mais il a préféré venir seul, car beaucoup moins dangereux. Pour nous parler de son passionnant métier d'apiculteur, j'ai nommé Benoît Gaudret.
Oh la vache!
Pas loin!
Ça ne dit rien!
Bien tenté, Marius!
Bonjour!
Salut Benoît!
Ah oui, elle est encore ici. Déesse de mes nuits, fantasme inavouable, mais bordel, quand vas-tu enfin lui dire que ton bonheur est ailleurs? Genre avec un mec qui joue du tambour et qui se trouve souvent derrière toi quand tu pousses la chansonnette? Mais je m'égare, j'ai nommé Starlette!
Ça va pas!
Et enfin, l'homme qui est le cauchemar de mes nuits. L'homme qui vit avec la femme que j'aimerais tellement tenir dans mes bras. Bon, allez, je m'égare encore une fois. Je te laisse reprendre les rênes de l'émission. Je m'en vais porter quelques cartons et je vous dis à tout de suite.
Chacha, il est trop top l'hôtel. Franchement, la piscine.
Il n'y a pas de Chacha ici. Il n'y a pas de Chacha. Allez, ciao, bonne émission. Bonjour, à bientôt.
Il a enregistré du carton, c'est ça, non?
C'est vrai
qu'il avait un son bizarre.
Ouais, je trouve aussi, ouais.
Je crois qu'il a enregistré du Soyouz, en fait. Il
ouais, quelque part, j'ai l'impression qu'il s'attendait à beaucoup d'applaudissements. Il y avait des gros blancs, quand même.
Il s'est beaucoup d'espace, mais on l'a habitué à trop de solitude de notre part, en fait. Eh ben, nous voilà de retour après 2 mois déjà, effectivement. Hein. Les vacances, la période estivale, la pause, tout ça, on branle plus rien. Et puis, voilà, on se retrouve aujourd'hui. Et puis, là, c'est quoi de mieux pour reprendre que de reprendre dans un nouveau décor. Et là, on est invité par Sir Freddy.
Monsieur
Freddy. Quel décor.
Dans une cave pourrie.
Puisque nous sommes dans les écuries du Seigneur Freddy.
Quand même. Ouais.
En tout cas, merci Freddy de nous accueillir dans ta nouvelle demeure.
Mais avec plaisir.
C'est presque aussi paumé que quand on va chez Ludo.
Donc, presque.
Mais c'est pas dans l'heure.
Mais c'est pas dans l'heure. Déjà, on a gagné quelque chose.
Ils ont la pression d'habiter en ville.
Donc en tout cas, ouais, c'est très sympa. On a plein de place là. On est vraiment à notre aise. Hein.
Ah, oui.
C'est plutôt cool.
Mieux que chez toi. Hein, c'est...
Et donc, on a deux chroniqueurs qui ne sont pas là. Marius pour des raisons assez obscures, hein, parce que visiblement on n'a pas trop suivi pourquoi il était pas là. Et Didouille, hein, rentre oblige. Il faut bien qu'elle bosse un peu à un moment de l'année.
Tout aussi obscur.
Elle avait des copies à corriger.
Oh c'est bas.
Oh là 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 là.
Je l'ai quitté le travailler.
À travailler.
Ouais, bon.
Et donc on reçoit aujourd'hui pour cet épisode de rentrée quelqu'un qu'on avait sur nos tablettes depuis un bon petit moment, un copain d'enfance à Freddy et à moi, hein, l'ami Benoît Gaudrin et pas Gaudret. Et Benoît qui va venir nous parler de son activité d'apiculteur. Enfin, on va pas tout de suite commencer à rentrer dans le détail, mais
ne déflore pas.
Je sens qu'on va.
N'hésite pas, Benoît, à dire quand les blagues sont pourries.
C'est la rentrée, ça fait 2 mois, donc
je l'avais préparé depuis
ouais.
une petite semaine.
Ça à peu près.
Je sens que ta blague va faire le buzz.
T'es bien entre les deux. Hein.
Oh putain,
je regrette déjà d'être là, je pense. Et donc, comme on a un invité, on va privilégier l'échange avec ce même invité. Et donc, on limite à 3 rubriques. Cette fois-ci, ce mois-ci, c'est Starlette, Ludo et Freddy qui vont ponctuer notre entretien avant de terminer avec nos 60 secondes chrono dans lesquelles on présente nos coups de cœur, nos coups de gueule peut-être, le cas échéant, on va voir. On ne fait pas souvent de coups de gueule, on s'est fait la remarque, mais
Je suis pressé d'écouter celui de Benoît, il me l'a bien vendu en arrivant.
C'est ton coup d'avis, ça.
Non, c'est pour le mettre mal à l'aise.
On te reconnaît bien là. Et juste un tout petit mot rapide avant de s'en rentrer dans le détail. C'est vrai que cet été, on a fait une petite AG, donc il va y avoir quelques changements dans nos déroulés d'émission. Et
t'as
notamment...
des gens qui partent enfin, c'est ça que tu veux dire?
On a déjà Didou et Marius, finalement, on fait croire qu'ils étaient pris ailleurs, mais on s'en est débarrassé.
Le déménagement de Marius, en fait, c'est le vrai déménagement.
Effectivement, il fait ses cartons définitivement. Voilà. Enfin, on va faire donc un petit peu évoluer les émissions pour essayer de tenir sous la barre des deux heures, hein, dans la mesure du possible. Et donc, on a décidé de ne pas maintenir le quiz cette année. Freddy, prenant une nouvelle rubrique que tu vas nous présenter tout à l'heure. Hein, tu gardes la surprise pour tout à l'heure. Et Starlet également va faire évoluer un petit peu ses chroniques. Donc, avant de commencer justement à parler avec Benoît, on va attaquer avec une rubrique. Et on va commencer avec celle de Starlet, justement.
Quand je me regarde en quelque chose, je le fais à fond. C'est magnifique.
Oh, c'est pas mal.
J'adore.
Elle te plaît quand même cette référence?
Oh non, elle a mis une perruque.
Oh, ils sont forts les gars.
Ils sont forts les gars. Bah écoute.
Donc, j'en avais marre de mon rire, donc je me suis dit que celui de Yolande était plus harmonieux.
Il était pas mal, ouais, effectivement. Ouais.
Merci Christophe pour mon nouveau jingle, je l'aime bien. Christophe.
Et donc Starlet, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui?
Donc aujourd'hui, je voulais faire. Donc là, ça fait quand même 5 ans qu'on fait nos conneries là.
On attaque la 6e année, effectivement.
On attaque la 6e année.
Oh, mine de rien.
5 ans chez.
C'est
voilà.
Fou quand même.
Donc, c'est incroyable qu'il y ait des gens qui nous écoutent encore.
Je voulais refaire en fait le petit point sur tous les tests que j'avais faits pour savoir, parce que j'ai testé des trucs, sur le coup ça m'a emballé ou pas, mais là, avec le recul, est-ce que où j'en suis par rapport à tous ces tests en fait?
Est-ce que où j'en suis?
C'est la question.
C'est la rentrée, informer un peu les choses.
Est-ce que l'idée c'est de tibétain vivre toujours chez toi, tout ça?
Voilà.
Est-ce que l'idée c'est de les reprendre tous un par un pour avoir un deuxième avis?
Alors là, je pense que on a dit 20 minutes la chronique, ça va être chaud quand même.
Par un par un. Ouais.
Non, non, mais
parce que c'était 20 minutes par chronique.
Au cours de l'année, je veux dire.
Oh non. Non, il y en a que j'ai définitivement enterré.
D'accord.
Voilà, donc, vous vous rappelez un petit peu de ce que j'avais fait ou pas?
Oui,
il y en a quelques-uns dont on se souvient.
Vous me les sortez comme ça, vite.
Moi, je me souviens du matelas.
Le matelas de pierre.
Moi, je me souviens du premier, le bootcamp.
Ouais.
Moi, les le massage avec les pierres, là, le truc.
J'ai jamais fait ça.
Si, si, t'as fait ça.
Non, le bol tibétain.
Ah oui.
Le bar à sieste.
Jamais plus tu me fais ça, ok.
Bar à sieste, oui, pardon.
Bah, le bol tibétain, effectivement, celui-là, il nous a
fait. Voilà, les ventouses, t'as dit.
Le truc dégueulasse.
Le kéfir.
Le salon de l'érotisme.
Oui, bah, dis, c'est bien, vous rappelez bien.
Qu'est-ce que tu crois?
On t'écoute.
On t'écoute. Le bootcamp, le salon de l'érotisme et le bar à sieste, c'était les trois premiers que j'avais fait quand même. Donc c'est quand même bien vieux.
Et donc les derniers, on s'en souvient pas en fait.
Ah si, le kéfir, il s'est rappelé du kéfir, du matelas.
La lessive, non?
Et tu avais fait Zayn aussi, tu avais pas fait le ham?
Non, c'était pas dans les tests ça. Donc voilà, pour vous le refaire, donc dans l'ordre, j'en ai fait 18 quand même en 5 ans.
Eh ben.
Dis donc.
Pas mal.
18 tests. Donc il y avait le.
18 tests sur 42 épisodes à ce jour, ça fait 1 sur 2.
Ouais. Bah quand même, 18
tests. T'avais aussi fait les lessives, les trucs à la main, fait main et tout ça.
Et oui, j'avais.
Chez Richard.
Exactement. Donc, alors.
Je peux t'en citer d'autres si tu veux.
Vas-y.
Il n'y a pas de points à gagner. Hein.
En gros, je vais les refaire vitement. Donc j'avais commencé par le bootcamp. C'était, vous vous rappelez un petit peu de ce que c'était? C'était une horrible.
Ouais,
c'était
une corde.
Du sport. Une séance de sport.
Très très fort.
Ouais, mais c'était du sport très très fort. Donc ça, ce sera plus jamais de ma vie. En fait, même avec 5 ans de recul.
C'est pas ça sera plus jamais. Ça a plus jamais été après le test.
Tu devais tirer sur une corde, c'est ça? Vous
tirer
des
pneus,
non?
Il y avait plein d'exercices super durs.
Ah ouais. Je devais faire une espèce de d'onde avec une corde qui était longue et qui était lourde et qui était, c'était horrible. Vraiment.
Du sport déjà.
Oui. Donc ça, c'est fini. Le salon de l'érotisme, mais c'est fini pour ma vie aussi, je pense, parce que c'était vraiment nul.
Oh non, faut pas dire ça.
Alors peut-être que là, c'était donc il y a 5 ans.
Ouais,
j'avais dit
que
c'était.
T'as dit que c'était, ça faisait un peu le salon de la viande, enfin c'est l'étalage et du.
C'était un peu le supermarché bas de gamme.
Moi, je suis pas vegan. Ouais.
Je me rappelle qu'il y avait des couleurs partout, ça tourbillonnait.
Ouais, c'était pas bien. Donc ça déjà à la base.
Moi, je me souviens des cadeaux qu'on avait eu.
Ah oui.
On avait un caleçon. Moi, j'avais un slip rose vachement sexy. Bah tous les jours.
Faut le laver des fois monsieur quand même.
Il est plus rose d'ailleurs.
Donc ça, à l'époque, ça ne m'avait pas plu. Et ben ce, non, toujours pas, j'ai pas re-envie. Le bar à sieste qui m'avait pas convaincu à l'époque, et ben maintenant, j'ai toujours pas envie d'y retourner.
Ah bah merde.
Non, tu vois, en fait, tous les tests que je faisais, des trucs... Wico, j'avais testé la marque Wico.
Mais tu n'es pas revenu non plus, celle-là.
C'était au début, c'était quand c'était sorti. En fait, j'avais été conquise par un modèle. Celui d'après, franchement, c'était un coup à péter les plombs. Le service clientèle à l'époque, c'était vraiment merdique. Donc, du coup, j'ai pas reproduit. Peut-être que je reproduirai un jour, par contre, parce que le premier téléphone avait bien marché et ils ont dû faire des efforts quand même.
T'es sur quoi maintenant ?
Sur Huawei.
Ah oui, pas que c'est la grosse marque.
Ouais, c'est la grosse tendance.
C'est les filles chinois.
Eh ben, écoute, ça, j'en suis assez satisfaite.
Ils ont dépassé Apple d'ailleurs.
Ouais. Oui, c'est ça. Ils sont deuxième maintenant, derrière Samsung. Mm. Absolument. Est-ce que quelqu'un a un Wico là autour de la table ?
Non, non. Il y en a de moins en moins quand même.
Il n'y en a plus.
Tu prends pour des ringards ou quoi ? Ouais.
C'est bon, on a les moyens de s'acheter.
Au pire, on a les moyens de s'acheter des Huawei.
J'allais dire, au pire, des pauvres.
J'avais testé l'atelier d'écriture.
Ah oui, avec
Ludo et Didouille.
Avec
Anne de Brienne, donc au rêve de l'escalier. Ça m'avait complètement emballé et avec le recul, je me dis t'as quoi, t'as pas un Wico? Non, t'as un truc, c'est un Nokia 33 ce qu'il a, Benoît.
Non, c'est le dernier Samsung.
Un Samsung de chantier.
Du 19e siècle.
L'atelier d'écriture, en voyant ma liste, je me dis je l'ai jamais refait, mais j'aimerais bien. Pour plus tard, en fait, je vous conseille.
C'était Anne de Brienne à l'époque.
C'était Anne de Brienne et Dorothée Piatek.
Exact, ouais.
C'était super cool. À l'époque, deux mois après sa sortie en France, j'avais testé Netflix.
Ah ouais,
tu vois. C'était sorti en juillet. Précurseur, c'était déjà sorti, mais c'était.
Oui, mais par rapport à l'ampleur qu'a pris le site aujourd'hui. C'est là où on voit
l'influence de l'anthropode.
On défait les carrières derrière.
C'est ça.
Comme tu le dis souvent, si on n'en avait pas parlé, peut-être que personne ne sera abonné aujourd'hui.
Moi, j'en suis convaincue. Et là, je vous dis, continuez les gens, parce que c'est bien Netflix, en fait. Pour 10 balles par mois, franchement, on a accès à tout. C'est vraiment génial.
C'est dommage pour les autres qui sont dans ta liste, ils n'ont pas tous marché pareil.
C'est vrai.
Elle a défait les carrières. Elle m'a vendu à l'époque, pas de résultat, voilà.
L'atelier couture, c'était l'épisode avec Greg et Bertrand. Alors ça, c'est un très très mauvais souvenir de cet épisode.
Moi, je m'en souviens pas. Bizarrement.
C'est une rubrique qui a duré à peu près 40 minutes avant le montage.
C'était l'épisode 13 avec Greg et Bertrand, mais c'était horrible. Avez été infernaux. Oh là là.
Mais moi, j'étais pas là, hein, sinon.
Tu m'aurais défendu. Ah bah oui, toi t'es non.
Toi t'es non.
Des histoires de prix, je sais plus,
Mais il a fallu que je répète 50 fois les mêmes choses parce que vous.
Bon, comme d'habitude en fait, non.
Je m'en souviens même plus.
C'est un peu décousu quand même.
Quel talent.
De fil en aiguille, nous arrivons à l'ex.
Bien, joli.
J'avais testé le kit racine. C'était vachement varié quand même, mes tests.
C'était avec Mickaël, non?
C'est quoi? Le kit racine.
C'était l'épisode 15, alors je sais plus avec qui c'était.
Christophe aussi a testé le kit racine.
Ah oui, je me souviens, les implantations?
Non.
Non, rien à voir.
C'était pour recolorer que la racine entre deux colorations.
Ah, je crois que c'était un truc de racine de ginseng ou un truc comme ça. Non,
c'était
les cheveux.
C'était pour les cheveux, en fait. Ça, c'était bien.
Est-ce que tu le referais aujourd'hui?
Eh ben, j'ai failli le faire et puis je me suis dégonflée, en fait.
D'accord.
Voilà, je laisse pousser mes cheveux blancs.
Ah,
c'est tellement
la honte, t'assumes?
Ouais, j'assume, ouais, pour l'instant.
Il y a beaucoup de gens qui veulent ressembler à Arnaud en ce moment.
C'est vrai qu'on a un max en plus de cheveux blancs quand on regarde bien.
Mais pour la barbe, elle en est pas très loin.
Les Blueberry Glasses, vous vous rappelez de ce que c'était, les Blueberry Glasses?
Les lunettes anti-bleu, là.
Pour les écrans d'ordinateur.
Ouais, et à l'époque, pareil, c'était tout nouveau. Et là, maintenant, on en voit plein partout. Ouais. Je pense que c'est un peu grâce à moi.
Je pense aussi.
Et ça, c'est très bien.
Une paire gratos.
Mais oui, de toute façon, j'ai tenté. Tous les trucs que j'ai testés, là, j'ai tenté d'avoir des trucs gratos, j'ai jamais rien eu. Peut-être pour ça aussi que je recommande pas. Donc les Blueberry Glasses, maintenant ils font même sur les lunettes de vue, en fait,
oui,
le filtre anti-lumière bleue. Je pense que c'est aussi.
Moi j'ai ça, moi, pour l'écran.
Ouais, Didouille aussi, elle a ça.
J'avais testé repeindre un fauteuil en tissu.
Un t-shirt en tissu peau.
Est-ce que t'as entendu?
C'est bizarre, ça.
Repeindre avec de la peinture un fauteuil en tissu avec du coton.
D'accord.
Je me souviens avec la peinture grise.
Ouais, c'est ça. Et ça, faut jamais le faire, en fait.
Ah.
Parce que sur le coup, on trouve que c'est beau.
Mais ça reste collé au cul après.
Mais en fait, c'est froid. Ah. Ouais, en fait, c'est dur.
Ah
ouais,
oui,
en fait, tu perds la souplesse du tissu en fait.
D'accord.
Ouais,
voilà.
Je me souviens qu'on n'avait pas osé te le dire sur le moment, mais en repartant, tu te souviens, Ludo, mais...
ouais.
Ça c'est vraiment laid.
Je m'en souviens, Freddy. Ouais.
Moi, je me souviens pas, Freddy, mais je me souviens que c'était froid et que c'était dur. Mais...
T'avais les yeux bordés, tu sais que c'était. Alors ça, non, faut pas le faire avec le recul. Tu vois, ouais. C'est ça qui est bien d'avoir le recul sur le truc. La cellule cup.
Ah oui.
Ah oui. Alors vous rappelez de Mickaël avec.
Ah oui oui oui.
Ah oui.
Alors
j'ai son suçon sur la tête pendant une semaine.
Celle-là, c'est pareil.
À Benoît ce que c'est.
Alors la cellule cup, faudrait que t'écoutes l'épisode 27 parce que mais la chronique dure encore 40 minutes je crois parce que vous étiez encore hyper indisciplinés.
Il faut dire que le sujet le prête voilà. Ouais, quand même.
Alors c'est des petites ventouses en silicone qui sont hautes comme ça et larges comme ça. Tu pinces, tu fais le vide. Tu te le mets sur l'endroit c'est
où tu le mets en fait, sur sur ce que tu veux en fait.
Tu te mets sur l'endroit voilà, tu te le mets sur l'endroit.
Où t'as de la cellulite en général peut-être le cul.
En général peut-être.
Rarement sur les oreilles effectivement.
Oui. Ben moi oui.
Donc en général peut-être le cul et tu lâches ta ventouse et du coup ça fait, et après tu bouges le truc pour ça te avec la tu vois la pression
voilà. Moi je fais ça avec une treilleuse électrique des fois aussi mais c'est chacun son truc
et voilà et du coup ça te casse ta cellulite et c'est censé l'évacuer donc j'avais fait ça faisait très 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 mal donc du coup je l'avais perdu je l'avais laissé dans un coin je savais plus où c'était je l'ai retrouvé je l'ai ressorti là ça fait toujours très 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 mal mais je vais essayer de le faire quand même avec plus d'acharnement
ouais c'est pas c'est
mais
pas
je mécaniquement ça ne peut que marcher en fait
ah ouais
bah, ça te pète ton capiton, au bout d'un
et ça
moment.
Ça fait pas des hématomes de fou.
Ah
non.
Si, j'avais dit
pas avec
ça fait
le
gros bleu.
Quoi.
Tu, c'est exactement ça. Je me fais
bah
quoi.
Oui. Ouais.
Je me
bah
souviens
oui,
plus. Mais... Tu récupères le gras dans une fiole.
Et ouais. Tu en fais des quiches.
On a des bocaux en fait. On a plein de bocaux. C'est sympa.
Alors, dis ce que tu peux faire cuire dans la cellule cup qui fait aussi.
Ça, c'est le
mou. C'est mou en fait.
Ça, c'est plutôt le truc quand t'as tes règles en fait. Tu récupères. C'est vrai, non.
On en a pas parlé.
Exactement.
Bah bien sûr.
Non, on n'en a jamais parlé.
Tu avais pas testé ça.
La cup. Si.
Ah bah voilà.
J'avais pas fait de test.
On n'en avait pas parlé.
C'est pas obligé de le dire à la radio.
Il y a d'autres choses qu'on teste et dont on parle pas.
Donc ça, c'était il y a longtemps et ça fait encore parler hein, quand même apparemment.
Apparemment.
C'est toujours bien de revenir sur les bonnes choses.
Mon bras Mickaël qui doit toujours avoir un monsieur rêve
ouais.
Qu'il avait.
J'avais testé le casque de réalité virtuelle
ah,
avec
oui.
Pixel.
Ah oui, ah,
j'étais pas là mais j'avais vu la vidéo.
On avait mis une vidéo sur le site donc
oh,
ça c'était
trop
dans
mignon.
Les
Ah, quelle horreur.
Ah ouais. Oh ça c'était génial. Alors j'ai jamais refait mais j'aimerais bien refaire notamment pour comme je suis un peu phobique de plein de trucs, j'ai le vertige et tout ça, faire un saut en faire du parapente ou des trucs comme ça avec un casque de réalité virtuelle, j'aimerais bien voir en fait.
Mm-hmm. Je sais pas ce qui était super intéressant, c'était de te voir vivre cette expérience.
Alors qu'il se passait rien dans
génial.
La salle, mais toi t'étais.
Moi j'étais à fond, j'avais une petite suée et tout. Hein. Bah, suée gros. Hein. Ensuite j'avais testé, alors ça c'était spécial, le massage sonore.
Ah oui,
avec les bols.
Ça, on s'en souvient.
Ah,
ouais.
Avec les bols tibétains. Alors,
qui avait des effets sur les intestins, c'est ça.
Qui aurait pu, oui, me faire péter en direct.
Vibrer la membrane, comment on dit.
C'est le type chelou qui voulait t'emmener au 7e ciel.
C'est ça.
D'accord.
Voilà. Non, il m'a pas fait de proposition.
Tu parlais de Nico.
Donc ça, sur le coup, après le test, c'est pareil, je m'étais posé la question, peut-être que finalement je referais ou pas, et j'ai jamais refait. Et je referai jamais en fait. Voilà. Ouais. Non, mais non, avec le recul, j'ai plus envie.
Ça t'a laissé une impression désagréable.
Ouais, je sais pas, j'avais pas le feeling trop. J'ai pas envie de le refaire.
Mais tu t'es pas abandonné en fait, c'est ça le truc.
Mais c'était. Mais non,
c'est ce que Ludo te dit à chaque fois en fait.
Il faut que tu t'abandonnes à un moment. Faut...
Laisse-toi pénétrer par l'expérience.
Par les bols tibétains.
Cette saison repart sur d'excellentes bases.
Voilà, c'est ça. Après, j'avais testé, je vous avais lu l'horoscope version 1966.
Oui. Oh, ça, c'était drôle.
Je n'étais pas là, je pense.
Ah, t'étais pas là. Ah, c'est
pas du tout. J'ai aucun souvenir de ça.
Alors, en fait, j'avais retrouvé un petit livre, une vieille édition de 1966.
C'est Charnot, je crois.
Avec la tranche dorée et tout, le truc qui sentait vraiment le vieux petit bouquin. Et il faut que tu écoutes ça, par contre, vraiment. C'est l'épisode 31.
Génial.
Et ah en fait, on se rend compte qu'à l'époque, ils prenaient pas de pincettes quand même pour. C'était horrible. J'avais lu les caractères par signe. Christophe, il a pris cher.
C'était tellement vrai.
Je m'en souviens pas.
Mais c'était.
Ils prenaient pas de pincettes, mais ils étaient vachement perspicaces.
J'ai dû faire un. Depuis une quarantaine d'années déjà. 66.
50 ans. Mmh. Et c'était fin 2016, donc.
J'ai fait un déni d'horoscope. En fait.
Ben, je comprends.
Alors qu'avant,
j'étais à fond. Oui.
Épisode 32, j'avais testé le Teddy Bear.
Ah oui.
Le fameux matelas unique. Écoute, il est chez nous, on ne quittera jamais. C'est trop bien.
C'est trop bien.
Et je crois savoir que Freddy s'est équipé.
Mais oui, suite à ça et aussi à.
Mais oui, tout à fait, Marie-Jo.
Au test que choisir. Bah déjà, j'étais venu un jour, Nico n'était pas là, on avait testé. Je trouvais ça très bien.
Je vais passer,
En plus, aujourd'hui, t'es la seule nana, donc t'as même pas Didouille pour te soutenir.
Et du coup, on s'est aussi basé sur le test que choisir, et on a opté pour le matelas Emma, E2MA. Je crois que tu nous en avais parlé aussi.
Non, j'avais parlé de Eve, moi.
Ah, ok. En tout cas, on a reçu ça dans un petit carton. On se dit, mais c'est pas possible, il n'y a pas un matelas là-dedans.
Bah ouais, c'est clair.
Et en fait, voilà, tu l'ouvres et 10 minutes après, tu l'installes et tu dors dedans. Et c'est le pied, quoi. Moi, je suis assez sensible avec des problèmes de dos et tout.
Et, des problèmes de nez aussi.
Le matelas est ta mémoire de forme de nez.
Il faut que tu expliques peut-être, non, le
Ah oui, parce qu'on n'a pas expliqué.
Il faut quand même expliquer, que les gens sachent.
Un petit nez fracturé.
Un gros nez.
Explosé la gueule, oui.
On croirait que tu sors d'un film de Ludo, en fait.
Justement, je vais en parler tout à l'heure.
Une petite photo pour Facebook, c'est
De profil.
Du meilleur alors, profil.
Et du coup, voilà, on a acheté le Emma, et je vous le conseille parce que ça dépend sûrement des gens, mais en tout cas, on l'a trouvé très adapté à nos besoins.
Cool. Et
ça fait combien de temps que tu le testes, toi?
15
jours? Un mois?
Ouais. Explique-nous clairement tes besoins.
Je te dis, la mémoire de forme du nez, des trucs très précis, quand même.
Et il a dit, c'est le pied, donc.
Et c'est quoi la différence entre.
La levrette, par contre, c'est peut-être le point faible.
On sent que l'invité a du dossier, quoi. Voilà.
Quelle est la différence? Pour en avoir, donc en fait, c'est à double tranchant, la fin de Benoît.
Avec Benoît, on a dormi dans des tentes sans confort.
Ouais. Dans les mêmes tentes ou
dans les mêmes tentes, bien sûr.
Ah d'accord.
Ils ont fait vous aviez des amis communs. Sans confort, sans vêtements. En fait. Vous n'avez pas tout entendu.
Sans chemise et sans pantalon.
C'est quoi la différence entre le modèle Emma et Eve, enfin,
parce que... C'est pas la même marque.
C'est allemand, Emma. Okay. Alors je sais pas, Teddy Bear aussi, non?
Je sais plus. Non, je crois que c'est français, Teddy Bear.
Ah, c'est des marques différentes.
Comme son nom l'indique.
Ouais. J'ai un peu collabo là-dessus.
Bravo. Donc ensuite, j'avais testé à l'épisode de 33 la fabrication des produits ménagers. Alors ça, je valide et je revalide. Ça fait un an et demi qu'on fait notre lessive et on fera ça toute notre vie, je pense. Parce que c'est vraiment très...
Entre autres,
il y a plein d'autres trucs, mais c'est vraiment la lessive.
Mais ça, c'est votre côté bobo aussi.
Ouais, c'est vrai. Non, mais ça prend vraiment pas longtemps à faire. Et puis, c'est
ça coûte que dalle.
Écologique. Et ça coûte que dalle, économique, voilà. Donc ça, on continuera.
Bon, l'inconvénient, c'est quand même que tes fringues sont toujours sales.
Je pue un peu la merde, mais.
Ouais, c'est ça, c'est l'odeur persistante.
Oui, il faut savoir ce qu'on veut.
Sinon,
c'est un peu l'odeur de vieux, je sais pas,
c'est très tendance.
Tu veux faire un effort ou tu veux pas faire d'effort, voilà, c'est tout. Il faut savoir accepter quelques contreparties, quelques déconvenues.
Quelque part entre l'urine et le pâté de foie. Ouais.
sans compter les croûtes de peau.
Bon.
On peut pas tout avoir non plus. Hein. Arrêtez, je sens pas l'Ariel, c'est sûr. Bon,
arrêtez, j'ai l'impression d'être dans mon slip.
Et épisode 38, ça fait un peu catalogue, hein,
mais
c'est pour voir un petit peu le chemin parcouru. Je vous avais fait manger des insectes.
Exact.
Ah oui, je me souviens.
On avait testé
ouais,
ça parce que c'était un peu la.
C'est des abeilles en fait, je me souviens.
On est un peu dans le thème.
Des abeilles au miel, c'était bon.
Des criquets et des petits asticots, je ne sais plus ce que c'était comme variété. Ouais. Et parce que c'est l'avenir.
Bah oui, c'est l'avenir. Et moi, j'ai bien aimé.
Et c'était pas mauvais, mais c'était hyper.
Ça avait le goût de l'assaisonnement, en fait. Oui,
très
mais la texture était.
Craquant.
Comme des petits gâteaux.
Et le dernier de la liste, c'était le kéfir.
J'ai envie de dégueuler juste l'évocation du nom.
La cruche pleine de glaire, là.
C'est vrai que ça ressemble un peu à ça.
dont on ne sait pas si c'est une génération spontanée ou pas. Quoi,
est-ce qu'on peut mettre des fruits dedans? Je sais pas.
Je vous rappelle que vous avez une gastro deux semaines après.
Voilà. Donc, bah, deux semaines, ça va, c'est que ça met longtemps.
Cette boisson un peu lactofermentée qui aurait des vertus, des propriétés très bénéfiques.
Oui.
Et qui n'a pas fait du tout l'unanimité.
Tu connais ça, Benoît?
Alors, on a une ferme près de chez nous qui produit du kéfir et qui le vend.
Kéfir de lait ou d'eau
Du lait de vache.
Ah oui, donc c'est du fromage, c'est ça? Du coup, ils font des petits fromages.
Ils mettent ça en bouteille.
Ah oui, donc c'est du kéfir d'eau.
Moi, je n'ai pas goûté, non.
Bah écoute, tu sais.
Bah ouais, toi aussi, tu sais.
Voilà. Tu continuais le kéfir, Delphine.
Eh bien non, j'en ai eu marre. J'en ai eu marre parce qu'en fait...
T'as continué quelques semaines quand même.
Oui, j'ai continué un petit peu, mais en fait, quand tu t'absentes, le kéfir, donc c'est vivant, les grains sont vivants, et il faut toujours que, quand t'as fini de bouteille, tu les remettes dans une autre pour relancer le processus. Sinon, il faut que tu les endormes au frigo et tout. C'est quand tu t'absentes un peu, un week-end, un truc, soit tu les laisses crever, soit tu les remets au frigo, ça veut dire que tu les rendors, il faut les réactiver. C'est un gros...
Tu les tues, c'est du génocide de kéfir si tu te barres comme ça.
Non, mais tu sais qu'il y a des groupes Facebook qui parlent de kéfir. C'est exactement ça. Tu pauvres grains de kéfir.
Non.
Vous avez mis tel sucre, du sucre blanc raffiné, ils vont mourir, vos pauvres grains de kéfir.
Mais il n'y a pas une SPA pour le kéfir?
Mais non, mais ça fait, c'est ça.
Moi, ça fait penser aux mecs qui se masturbent dans le lavabo. Il y a des groupes Facebook. Il y a des groupes Facebook.
Pour les génocides.
Il y a des génocides de spermatozoïdes, quoi.
En même temps, le kéfir, ça ressemblait pas mal à ça. Ça se trouve, c'est les mêmes.
Ah bah merde, je peux pas. Donc voilà, donc ça fait un peu catalogue, mais pourquoi j'ai fait ça? Parce
voilà,
que ça fait 5 ans. 5 ans, donc il s'est passé plein de choses. Et donc je voulais refaire un petit bilan. Et aussi parce que dernièrement, on m'a demandé, tiens, j'ai vu passer des contacts sur Facebook, je t'aiderais bien. Un matelas unique, est-ce que vous pouvez me conseiller? J'ai renvoyé vers l'émission de l'Anthropode. Je testerais bien une recette de lessive, etc. J'ai renvoyé vers. Et je me dis. Finalement, il s'est passé plein de trucs, on s'en rappelait plus. Donc là, j'ai donné les petits numéros. Si vous voulez, si ça vous intéresse, vous pouvez aller écouter
N'hésitez
les épisodes.
Pas à aller récupérer les anciens épisodes.
De plus, on se rend compte quand même que la tendance, elle va vers des choses qui sont de plus en plus vertes. J'ai fini avec la fabrication des produits ménagers, manger des insectes, donc c'est dans la tendance aussi, le kéfir, etc. Et c'était pour vous annoncer que j'allais orienter un peu plus ma chronique là-dedans. Je vais pas lâcher les tests, mais...
plutôt écologique, alors, une chronique...
Ce serait plutôt une petite chronique truc et astuce pour essayer de minimiser notre empreinte écologique.
Comme l'annonçait ton nouveau jingle.
Absolument. Donc alors, après, c'est pas un truc pour. Je cherche pas du tout à donner des leçons ni quoi que ce soit, mais c'est pour vous donner mes petits trucs. Chacun son rythme par rapport à ça, et puis adhère qui veut, et ça peut donner des.
Et pas chercher
des
le
idées.
Test pour le test aussi, t'avais un peu.
Oui, parce qu'au bout d'un moment, voilà, j'en ai fait déjà 41. Non, pas 41, 18. Là, c'est qu'on a fait 41 épisodes où j'en ai. Enfin, voilà, bref, j'en ai fait 18. Bon, c'est bien.
Bah après, voilà.
En tout cas, c'était très bien. Et c'était très bien de le remettre nous rafraîchir un peu la mémoire, parce qu'effectivement, il y a des choses que, pourtant, je les écoute tous, les épisodes.
Et puis, sur le coup, j'ai pu être emballé par des trucs, et puis finalement, avec le temps, tu dis, bon, bah voilà, c'est passé le coup du test, l'enthousiasme du test, voilà.
Exactement.
Et je fais 20 minutes 52, c'est bien, non?
C'est parfait.
C'est nickel.
C'est parfait pour passer
c'est
à.
C'est un peu trop, mais
bon. C'est parfait pour passer la parole, enfin, la parole. Pour passer à notre invité. Notre
bonjour, invité.
Benoît. Mais d'abord, un petit jingle pour le lancer.
Tu peux rester. Pas de problème. Je suis même content que tu sois venu chez nous. J'aimerais bien que tu restes. On va manger des chips.
Alors, notre invité, Benoît Gaudret.
On rebaptise les gens, nous.
Un petit clin d'œil à Marius qui s'est trompé.
Alors, Benoît Gaudron, vous êtes...
mais je me souviens qu'on s'était trompé aussi... c'était à quelle occasion? Hervé
c'était
Aguilar.
C'était Anthony Coindroit.
Ouais, il y en a eu 4-5 comme ça. Alors, c'est un Benoît en pleine forme que nous recevons au micro de l'Anthropode. Un Benoît qui n'a pas de fracture du nez.
Et c'est comme beaucoup de gens autour de la table.
95% des gens. Et si on le reçoit au micro de l'Anthropode aujourd'hui, c'est parce qu'on espère qu'il va nous raconter des trucs super intéressants sur le miel et les abeilles. Pas la série AB Productions, bien sûr. Ludo s'en chargera dans sa Madeleine de Prout un peu plus tard. Mais bien de miel, d'apiculture, mais aussi de biodiversité, pourquoi pas. Toi qui nous en parlera. Pourquoi Benoît? Et pourquoi pas n'importe quel Pékin qui met une combinaison blanche pour déranger des abeilles qui produisent tranquillement leurs précieux sucrés. Bah parce que Benoît c'est un vieux copain, vous savez, à l'anthropode, il faut être soit un copain, soit couché avec...
Starlet.
T'as à faire du monde à inviter. Hein.
Ouais. Bon, on a un nouveau matelas.
Nico et moi, on connaît Benoît depuis quoi, 25 ans, ça doit faire à peu près.
Ouais, collège,
ouais,
quoi, on compte plus.
Ouais, c'est ça. Et parce que Benoît a toujours eu une dizaine d'idées à la minute, quel que soit le sujet de réflexion. Par exemple, avec Benoît, on est déjà allé au renseignement pour acheter du terrain sur les bords de la mer Noire en Roumanie. Alors, on a eu 10 fois le projet d'acheter une grande maison, retirer de tout pour y habiter en autogestion. Le genre de gars qui peut vous sauver les fesses quand vous vous retrouvez à traverser une rivière en crue au fin fond de la campagne norvégienne après un orage de tous les diables. Sûr que Nico aurait lui aussi moult anecdotes à raconter. Mais
j'en ai certaines que je vais garder pour nous.
C'est celle qu'on attend. En fait.
On verra peut-être de temps en temps quelques petites choses qui sortiront du KGB par-ci par-là.
Je m'égare, mais aujourd'hui Benoît s'est un peu posé à l'approche de la quarantaine. Prof de techno dans le civil. De technologie, Christophe, pas de musique techno. Il est aussi
tant mieux parce que j'ai horreur de la techno.
Et j'avais écrit Marius, mais quand même, je vois qu'il est pas là, je suis obligé d'adapter.
D'accord. C'est bien de me commenter.
On a c'est ce truc en même temps.
Ce qui est bien, c'est de me comparer à Marius en fait.
Alors moi, c'est vertigineux parce que je le lis en même temps.
Hein. T'es en abîme un peu.
Toi, t'es abîmé quoi.
Il est aussi devenu apiculteur. Donc, quelle mouche l'a donc piqué? Il va nous raconter tout ça dans un échange en deux temps. Je laisse la parole à notre.
Temps, il y a un jeu de mots aussi ou...
Évidemment, évidemment. Je laisse la parole à notre reine à nous, j'ai nommé Nico.
C'est mignon ça. C'est mignon. Et donc, oui, bah, aujourd'hui, on reçoit Benoît, comme tu disais, ça fait un moment qu'on l'avait dans nos tablettes pour.
Et je me souviens, t'as dit, putain, là, on n'est vraiment personne.
C'est un peu ça.
Bah, on Benoît.
Hey, on sort le Joker. Donc non, c'est vrai que c'est un nom qui est revenu quand on a justement fait notre petite AG cet été.
Ça fait longtemps qu'il ressort en plus.
Ah, oui, parce que justement, ça intéresse pas mal de gens. C'est vrai qu'on entend beaucoup parler des abeilles dans
le miel et les abeilles.
Dans le miel et les abeilles notamment. Mais c'est vrai que
dans l'actu,
puisque c'est souvent un marqueur qui est mis en avant pour parler justement de l'évolution du climat, de la perte de biodiversité, etc. C'est souvent aussi quelque chose que certaines entreprises ou administrations aiment bien mettre en avant, des ruches pour dire qu'ils œuvrent à la biodiversité dans les villes et des choses comme ça. Et du coup, on s'est dit, bah, quoi de mieux que de faire venir quelqu'un qui va nous parler un peu de ça. Puis c'est vrai que t'es quelqu'un qui aime bien aller au bout des choses, donc tu vas certainement avoir des détails à nous fournir pour répondre à nos questions. Mais justement, c'est vrai que nous, n'étant pas dans le milieu, on a une vision peut-être un peu trompée, un peu tronquée aussi de ce que c'est que d'être apiculteur. Est-ce que c'est que des bonhommes en blanc ?
Avant même de parler biodiversité, peut-être on peut commencer par là. En quoi consiste ton activité d'apiculteur ?
Déjà, depuis quand le fais-tu ? Est-ce que ça fait 15 jours ou...
Il a acheté sa première ruche hier.
Car, je sais pas, l'anthropode fait défait les carrières, donc sois bien prudent dans tes paroles.
Effectivement, j'ai plein d'idées bizarres qui me passent par la tête. Certaines restent peu de temps mises en place. J'en ai quelques-unes que j'ai mises en stand-by
en
et puis, que je sortirai un peu plus tard.
Là, il y en a une qui est passée par la tête de Freddy, apparemment.
L'apiculture, ça fait une dizaine d'années maintenant que je m'y suis mis.
Ah, oh, déjà ?
Peut-être qu'au début, j'imaginais pas que ça dure 10 ans. Que ça allait durer peut-être qu'un an ou deux. Et finalement, ça a été. C'est une activité qui est prenante. Et donc, voilà, 10 ans après, je suis toujours là. Et puis, j'espère pouvoir continuer cette activité, même si c'est pas facile.
Ça t'est venu comment?
Oui, ça m'est venu comment? Comme toutes les autres idées.
Histoire de beuverie.
Oh non, parce que Benoît, non.
Clairement, j'ai dit à ma femme un jour, ah tiens, ça, j'aimerais bien. Puis, elle m'a offert des cours.
Ah voilà, ouais, c'était une des questions.
Donc elle m'avait offert un bon pour des cours. Voilà, que j'ai pas pu faire pendant 2-3 ans. Donc c'est vieux maintenant, ça fait une quinzaine d'années presque.
Ah oui.
Et au bout de 2-3 ans, j'ai enfin utilisé ce bon qu'elle m'avait offert pour prendre des cours. Et puis,
il y a des bons pour prendre des cours?
Non,
des
bons, elle m'a écrit sur un papier.
Non, mais tu peux prendre des cours.
Donc on peut prendre des cours, il faut prendre des cours.
Auprès d'un apiculteur qui exerce déjà.
Auprès d'associations d'apiculteurs qui.
Ah oui. Parce que sinon, c'était bon pour une maîtrise d'apiculture, c'est-à-dire 4 ans d'études à la fac.
Il y a des diplômes qui existent, effectivement, pour les futurs professionnels.
Ah, tu vois.
Après, je reste un amateur, on va dire.
C'était, donc t'as pris combien, tu prends tes heures de cours et après tu peux décréter voilà, que t'es apiculteur.
On peut devenir apiculteur sans prendre de cours, mais dans ce cas-là on prend de gros risques. Dans ce cas-là on prend de gros risques et puis on aura du mal à faire un travail de qualité.
Donc ça veut dire que tu es pas professionnel, donc t'as une production de quel ordre en fait, enfin, si t'as pas le diplôme, enfin, j'imagine qu'il doit y avoir des réglementations là-dessus.
Donc pas professionnel, c'est...
Enfin c'est péjoratif quoi.
J'ai un boulot à côté, donc c'est pas ce qui me nourrit.
C'est ça.
Ouais. Effectivement, je produis quelques centaines de kilos quand même.
Ah quand même.
Un peu trop pour ma consommation personnelle. je suis obligé d'en vendre et puis à ce titre, je suis déclaré. Et tous les apiculteurs sont obligés de toute façon de se déclarer d'un point de vue professionnel en tant
et
que
sanitaire,
producteur
pour
le côté sanitaire, le tracé de.
Et etc. La formation, elle a duré combien de temps ?
Moi, j'ai pris des cours pendant 2 ans. Après, c'est pas quelque chose d'obligatoire. Non. Mais,
et ça consiste en
j'ai
quoi
fait 2 saisons en fait.
D'accord.
Les cours, c'est un peu comme on prendrait des cours
pratique et théorie.
Voilà, est-ce qu'il y a de la théorie, est-ce qu'il y a de la pratique, est-ce que c'est sur des périodes particulières ou est-ce que c'est toutes les semaines pendant X mois, enfin.
On trouve de tout.
Il y a tout, d'accord.
Donc il y a des cours de toutes sortes. En surfant sur Internet, on trouve ça facilement. Il y a des fois des cursus d'un week-end seulement, je sais pas, des choses.
Initiation
comme ça.
Quoi.
En fait. Moi, j'ai suivi 2 saisons complètes. Donc là, c'est la gestion d'un rucher. Sur 2 saisons entières, c'est le syndicat apicole au Normand qui propose ça. On le trouve sur Internet, SAHN. Voilà, bon, c'est des coûts, ça coûte rien du tout, ça doit me coûter 17 euros, je crois, l'année.
Ah oui,
dérisoire.
La moitié d'une cotisation en France.
Il y a un message.
Oh, le gâchis.
Et nous, on n'a même pas de miel en plus.
Voilà. Et autant vous dire qu'il y a une très grosse demande, donc bah, là par exemple, il est déjà trop tard pour s'inscrire pour la prochaine saison.
D'accord.
Ah oui, complètement. Ouais. C'est-à-dire que toi, quand tu l'avais fait, déjà c'était quelque chose qui avait le vent en poupe ou c'est quelque chose qui évolue beaucoup, un peu à la mode ou tendance.
Ça allait démarrer quoi. Mmh. C'était donc ça s'est agrossi maintenant. Avant, il n'y avait qu'un seul rucher qui proposait ça, SHN. Donc j'ai pris des cours à 100 de kilomètres de chez moi.
Ah oui, quand même. Ah ouais. Donc il faut être motivé quand même, effectivement.
Un petit peu. En point de vue empreinte carbone, c'est pas au top du top. Mais maintenant, il y en a un petit peu partout. Donc ils ont 3 ruchers écoles en Seine-Maritime. Mais il y a d'autres associations qui proposent le même genre de système.
Et toi, en tant que professionnel maintenant avec du recul, est-ce que tu proposes des formations ou des choses comme ça, des initiations, tu accueilles du monde ou t'es pas, non. Faut être habilité ou t'as peut-être pas le temps.
Alors au sein de cette même association,
je t'en fous.
Non,
je les emmerde les autres.
J'ai travaillé jusqu'à l'année dernière en tant qu'animateur dans cette association pendant, je vais faire 5 années. Donc pas pour les ruches et écoles de débutants, mais pour ceux qui avaient déjà une expérience. Mmh. Donc, un genre de club d'apiculteurs, si on veut. Voilà, j'ai arrêté là maintenant parce que c'est trop chronophage et puis finalement, j'avais plus le temps de m'occuper de mes abeilles correctement. Ouais.
Et est-ce que ça s'explique l'engouement pour cette activité, puisque tu dis que toutes les associations sont débordées en fait de demandes.
Pourquoi aujourd'hui il y a tant
pourquoi il y a tant de gens qui s'insèrent dans cette démarche?
Là, je mettrais ça sur le dos de la médiatisation, ce côté. Approche de la biodiversité, donc il y a énormément de gens qui se lancent là-dedans.
Il y a moins de monde pour les cafards, quoi.
oui, à petite échelle, mais peut-être sans connaissance aussi de ce que c'est vraiment.
De ce que ça représente.
Donc
comme
ils veulent avoir une ruche comme ils voudraient avoir une poule au fond du jardin.
Ouais, d'accord. Ouais.
Mais
c'est pas le même. Il y a une implication.
Mais, dis-moi si je me trompe, mais les poules, ça fait pas de miel. Hein.
Parce que t'as jamais acheté les bonnes poules.
Ah, ouais.
D'ailleurs, à ce sujet concrètement, ça se passe comment? T'as ta formation et après tu achètes une ruche, t'achètes des abeilles. Comment ça se passe?
Bon, rien ne t'empêche d'acheter une ruche et des abeilles sans prendre de formation.
Mais tu peux. Tu achètes ça auprès
t'achètes
de.
T'achètes des abeilles.
T'achètes des abeilles justement.
Effectivement, on peut acheter des abeilles. Moi-même, je vends des abeilles.
D'accord.
C'est un 195 francs.
En promo.
C'était à peu près dans les tarifs quand même.
Ah ouais.
Ça coûte relativement cher. Après, on peut, et j'ai commencé comme ça, on peut attraper des essaims.
Dans la nature.
Enfin, dans la nature ou chez les particuliers.
Il me semble avoir entendu une anecdote de Virginie qui m'expliquait que vous étiez revenu dans dans votre saxo avec un essaim dans le coffre et des abeilles qui se baladaient dans la voiture. C'est un truc dont j'ai rêvé ou c'est vraiment comme ça que ça se passait au début?
Oui, bon, effectivement, il ne faut pas avoir peur des abeilles.
C'est mieux
premier
quand même,
conseil.
Oui.
Le, ce qui,
Donc, si les mouches vous effraient,
ça m'arrive régulièrement de voyager avec une centaine d'abeilles qui volent autour de moi en voiture.
Oh. Mais sans protection.
Ouais, c'est compliqué de conduire avec la protection.
Tu sais quoi, je sais pas si c'est plus compliqué de conduire sans protection de conduire avec sans abeilles qui volent autour de toi quand même. Hein.
Mais sinon, tu fais aussi de la fumée dans la voiture pour. Non.
Non. Je roule le coffre ouvert. D'accord. J'espère qu'elles s'envolent. Mais effectivement, oui, on attrape des essaims. Bon, après, ça, on se débrouille plus ou moins bien au début. Et parfois.
Moyennement bien.
Parfois, vraiment moins bien.
Il y a dû avoir quelques déconvenues. Ouais.
Qu'est-ce que t'appelles l'essaim? C'est le nid qui est formé.
Donc là, on va commencer à rentrer dans le.
Technique, hein,
toi. Naturellement, pour se reproduire, la ruche se divise. Donc l'ancienne reine, enfin la reine qui est dans la ruche, est éjectée avec à peu près la moitié de la colonie, donc ça va 10-20 000 abeilles, qui sortent de la ruche et qui vont s'accrocher dans un arbre ou sur un support à proximité.
Qui s'accrochent entre elles, quoi.
Elles s'accrochent à l'arbre et entre elles, elles forment une grappe. Et il suffit de secouer cette grappe-là, de la récupérer dans un seau, et puis de verser ce seau dans une ruche, et normalement c'est gagné. Bon, là c'est sur la théorie.
Parce que comme ça, ça avait l'air bien facile.
Sur le papier, ça a l'air évident. Hein.
On y va, on fait un petit study, t'en as pas dans le jardin. Hein.
Dans la pratique, c'est un petit peu plus complexe que ça. Mais voilà, bon, l'idée, ça reste ça, de récupérer les seins et puis de l'enrucher.
T'as commencé comme ça?
J'ai commencé comme ça en allant chez des gens. Alors, le truc, c'est qu'au début, comme j'étais pas, on me connaissait pas, on me proposait que des essaims.
Des guêpes?
Non, beaucoup de guêpes.
Des frelons?
Non, mais que des essaims qui étaient planqués à des endroits inaccessibles. Donc je me suis retrouvé à monter sur des toits à 8 mètres de haut, démonter des cache-moineaux de maison. Alors au début, on y va, le cœur vaillant et tout.
La fleur aussi. Voilà.
Bon, maintenant, j'ai retiré d'internet toutes les annonces où je m'étais récupéré abeille, machin, c'est fini. Ouais, mais bon, je laisse la place au.
Oui, parce qu'en plus, quand futur, tu t'engages à le faire, une fois que t'es arrivé, tu peux pas dire bah non, là, non.
Voilà, c'est compliqué. Ouais, ça m'est arrivé de dire non, je monte pas s'il n'y a pas un échafaudage. Et puis le lendemain, il me rappelle bon, on a fait venir un couvreur, il y a un échafaudage.
Oh la vache.
Merde.
Pas de bol.
Pas de bol.
Mais justement, le petit clin d'œil de Freddy, tu t'occupes des abeilles. Par contre, les guêpes, c'est quelque chose de complètement différent.
Et elles produisent pas de miel.
Souvent, oui. Non, mais voilà. Souvent, on doit te poser des questions sur les guêpes ou des choses comme ça. T'es pas catégorisé, enfin catalogué comme l'expert des petites bêtes volantes ou des trucs comme ça, un petit peu des fois. Ou
toujours, on l'est fatalement. Pas plus tard qu'hier, mon voisin m'a appelé dans la rue.
Tiens, toi qui es dans la guêpe.
Je viens voir dans mon jardin ce qu'il y a. Donc, il avait quelques abeilles solitaires qui creusaient dans la terre. Il fallait que je lui explique tout sur les abeilles solitaires, que je connais pas plus que ça. J'ai essayé de le rassurer.
Mais toi, du coup, tu vas récupérer des abeilles là, comme ça, qui se sont fait éjecter. Une fois que tu les as récupérées, est-ce qu'elles se refont éjecter de chez toi ou comment ça se passe après?
Non, alors,
il fait un loyer sympa.
Quand on récupère un essaim comme ça, on récupère l'ancienne reine de la ruche avec donc la moitié des abeilles.
Ouais.
Et elles vont refaire une colonie, enfin remonter la colonie. Reconstruire les rayons de cire, restocker du miel, etc. La reine va se remettre à pondre. C'est une reine en général vieillissante, donc c'est pas les meilleures reines.
Ça.
Et la ruche qui s'est séparée de cette reine, elle va réélever une nouvelle reine pour
se remettre un peu.
Pour continuer. Et donc c'est leur manière de se reproduire. Elles se divisent.
Une nouvelle colonie, ça prend combien de temps? Avec une reine.
Une vieille reine ménopausée.
Ouais, une vieille reine ménopausée. Il faut combien de temps pour qu'elle ait reconstitué les rayons de cire, etc.
Ça va dépendre de l'apiculteur.
D'accord.
Idéalement, il faut que ce soit fait avant l'hiver. Voilà.
C'est quoi tu parlais des abeilles solitaires, mais c'est quoi exactement les abeilles?
Il n'est pas expert, il a dit.
Alors, oui, mais ça correspond.
C'est sacré soirée. Est-ce qu'on trouvait ton voisin?
Ça correspond à quoi? C'est-à-dire, elles se sont perdues ou elles sont.
Sinon, on peut mettre des fruits dedans.
C'est pas les mêmes espèces.
D'accord.
Donc, en France, on a à peu près 1000 espèces d'abeilles. Dont seulement.
Ben voilà, l'explication rationnelle. Voilà. Écoutez au moins.
Dont seulement 4 ou 5 qui sont domestiques finalement. Donc une qui vient d'ici et puis d'autres qu'on a importées.
Ouais.
Après, le tout reste, ce sont des abeilles solitaires qui creusent des petits trous. Vous avez déjà eu ça
chez
vous.
Oui, mais ils sont dans la terre par contre.
Ils creusent des petits trous, ils pondent leurs œufs, ils stockent du pollen. ils referment le trou. Et puis les œufs vont éclore et puis les bébés vont manger le pollen qu'à leur.
Ils font pas de miel par contre.
Ils font pas de miel du tout, ils stockent juste.
Ouais, ce qu'il faut quoi.
Okay. Ce qu'il faut dans.
On est en train de perdre Arnaud.
Je l'ai fait quelque chose.
C'est même plus de la buée sur les lunettes.
Ah putain, il a sorti les essuie-glaces et tout.
On a loupé un épisode là.
Il est parti en fou.
C'est quand, il a dit sacrée soirée.
C'est Nico qui me.
Oh, bah, c'est de ma faute. Voilà.
C'est un peu disproportionné.
Oui, c'est vrai. Je trouve aussi. Juste pour poursuivre. On est tous, enfin moi j'ai une question un peu bête.
Surtout toi qui as des questions bêtes, hein, tu ne nous mets pas dans l'eau.
L'abeille, comment elle produit le miel?
Ouais, moi aussi, je voulais me la poser cette question.
Tu les mets dans la ruche et elle s'approprie la ruche, mais que.
C'est le caca de l'abeille.
Alors, les guêpes ne font pas de miel pour une très bonne raison, c'est que la colonie de guêpes n'hiverne pas, elle passe pas l'hiver. C'est juste quelques fondatrices qui font des réserves qui deviennent bien grasses et puis qui hivernent dans un tas de bois ou quelque chose comme ça et qui reconstituent à elle seule la colonie l'année d'après.
Donc il s'y connaît quand même un petit peu en guêpe. Hein,
L'abeille, elle doit faire des réserves puisque c'est la colonie entière qui hiverne, la colonie entière, ce qu'il en reste en tout cas. Donc en hiver, on est à 20 à 10 000 abeilles à peu près dans la ruche. C'est une petite colonie qui a besoin de réserves, qui va se nourrir, qui va rester uniquement dans la ruche, qui va pas sortir ou très peu. En tout cas, pas pour aller se nourrir. Et voilà, bon, elle a besoin de réserves pour tenir jusqu'au mois d'avril l'année suivante. Elle va faire du miel en butinant les fleurs. Sur les fleurs, elle trouve du nectar. Donc c'est une eau sucrée.
Elle commence à le produire au printemps ou...
Elle commence ça dès qu'on trouve des fleurs.
D'accord.
Voilà. Constitue la réserve, quoi.
Des fleurs qui produisent du nectar, on peut en trouver. Ça dépend où on habite. Chez nous, effectivement, ça va être plutôt au mois de mars, avril. Quoi. Les toutes premières. On en trouve déjà au mois de janvier sur le noisetier. Elles prennent cette eau sucrée, elles la ramènent à la ruche, elles la stockent et après elles la sèchent. Et donc le miel, c'est finalement du nectar asséché.
Elles stockent ça dans les alvéoles.
Elles stockent ça dans les alvéoles. Donc le nectar, c'est on va dire 30% de sucre pour 70% d'eau. Et ça devient du miel à partir du moment où il y a moins de 20% d'eau dedans.
Mais comment on explique ce côté un peu liquoreux de certains miels? C'est-à-dire que le nectar de fleurs, à un moment, il est...
Selon la sucrosité du truc, quoi, en fait.
C'est-à-dire que
sucrosité. Je sais pas si c'est ça, en fait.
C'est-à-dire qu'effectivement, elle stocke ce nectar de fleurs,
oui.
Mais à quel moment...
Elle la sèche après.
Ouais, mais à quel moment il peut devenir un peu liquide? Enfin,
il est liquide d'entrée de jeu, puisque c'est de l'eau sucrée.
D'accord, c'est ça, en
fait. C'est de l'eau sucrée qui récupère sur les fleurs.
D'accord. C'est pas le pollen...
Non. Alors, le pollen, il le stocke différemment, elle le stocke ailleurs.
C'est différent, quoi.
C'est différent. C'est une autre production de la ruche. Hein. On peut produire du miel avec nos ruches. On peut produire du miel, on le vole clairement aux abeilles.
Mais c'est ça, en fait, vous leur piquez leur réserve de l'hiver, quoi.
Vous les affamez,
c'est
quoi,
carrément
c'est ça,
bâtard.
Alors, oui, c'est un petit.
Oui, un salaud, petit pourri, vendu.
Je reviendrai là-dessus plus tard, mais oui, effectivement, on leur pique leurs réserves. Ouais. On s'arrange pour qu'elles en produisent trop.
Ah, ok. Ah. C'est ça le secret. D'accord.
On s'arrange pour qu'elles en produisent.
C'est bâtard en plus, quand même.
Ouais, ouais. Ouais, quand même.
Exploiteur, va.
Il n'avait pas fini son.
Pardon, ouais.
Donc, autre production de la ruche, le pollen. On peut produire du pollen. Vous avez déjà trouvé du pollen qui se vend en grains.
Oui. C'est ce qu'on appelle la gelée royale ou des choses comme ça.
C'est ce qu'on appelle le pollen.
D'accord. Et bim.
On peut également produire de la gelée royale. Donc, la gelée royale, c'est une nourriture qui sert aux abeilles à élever les futures reines. Donc j'expliquais tout à l'heure que l'ancienne reine pouvait être éjectée de la ruche. Dans ce cas-là, elles élèvent une nouvelle reine. Une reine, c'est ni plus ni moins que... Enfin, génétiquement, c'est la même chose que les ouvrières. Elle a juste mangé différemment quand elle était jeune,
d'accord,
quand elle était larve. Mmh. Elle a mangé uniquement de la gelée royale. D'accord. Et elle s'est développée différemment. Elle est beaucoup plus grande. Elle n'a pas les mêmes organes qui se sont développés. Et puis,
Par l'alimentation.
Juste
en fait.
Par l'alimentation.
Et comment on l'a choisi pour s'alimenter de cette manière-là?
Oui, c'est ça, parce qu'il n'y en a qu'une de reine à chaque fois.
Alors, ça, on n'explique pas encore bien comment elles choisissent.
Par vote.
Ça doit être un vote.
Les reines.
T'aurais pu te renseigner. Voilà.
Elles en choisissent plusieurs. Nous, pour produire de la gelée royale, on les force, on leur enlève leurs reines, comme ça, elles sont obligées d'en élever, et on les force à élever des reines. Par grande quantité, hein, donc personnellement je ne produis pas de gelée royale, mais on va mettre 50 à 100 reines à élever, et quand elles commencent à les nourrir, on tue les 100 futures reines. Et avec une petite pompe, on récupère... Alors, je crois que c'est 0,2 grammes par cellule, enfin, par future reine. Ouais. Donc, une petite pompe cellule par cellule.
La dose, ouais, effectivement.
Ça prend énormément de temps à produire.
C'est pour ça que ça coûte un bras.
Et c'est pour ça que ça coûte très cher. Surtout si c'est de la gelée royale qui a réellement été produite chez nous, puisque 96% de la gelée royale vendue en France n'est pas produite en France.
J'ai une question.
Je n'irai pas jusqu'où c'est produit, mais en tout cas pas chez nous.
Pour rejoindre ce que disait Christophe, en fait, du coup, la gelée royale, en fait, c'est quoi finalement?
Ben oui.
C'est ça. Alors, c'est,
par rapport au miel, par exemple.
Parce que... C'est les abeilles qui font ça à partir de miel, de pollen. Elles le mâchent, elles le recrachent. Ouais.
C'est une espèce d'alchimie, en fait, qu'elles fabriquent eux-mêmes.
Et donc, on trouve aussi des enzymes qu'elles ont dans leur tube digestif. Ouais. Puisque, j'irais pas jusqu'à dire que c'est du vomi d'abeille. Hein.
Mais les fourmis font ça aussi.
Comment ils disent dans les fourmis?
Je me souviens plus du nom, mais elles régulent. Pour nourrir en fait les leurs. Quoi.
Voilà. Et par rapport à ce que disait Christophe justement tout à l'heure, là je vois sur ton pot de miel, il est noté que c'est miel crémeux. Qu'est-ce qui explique les différences de texture entre les différents
miels? Le miel de printemps est assez différent du miel d'été. Hein.
J'ai des pots de miel d'été dans la voiture, vous verrez que c'est très différent puisqu'il est liquide.
Ouais, c'est ça en fait.
La différence de texture, ça va être essentiellement dû à la concentration des différents sucres qu'on va retrouver dedans, donc plus ou moins de fructose, plus ou moins de maltose, ça va dépendre des plantes qui auront été butinées, puisqu'elles ne donnent pas toutes le même nectar.
D'accord.
Voilà.
D'accord.
Effectivement, donc en fait, c'est le dosage en eau sucrée qu'elles vont trouver dans la fleur qui va donner la
texture. Il y aura toujours dans notre miel, il y aura toujours moins de 20% d'eau. Oui. Cependant, les sucres qui sont, donc les 80% qui restent, les sucres qui constituent le miel sont de nature différente. Donc, en général, c'est fructose, maltose, tous ces mots en ose. Suivant la quantité de l'un ou l'autre, on a un miel qui reste plus ou moins longtemps liquide, comme le miel d'acacia qui reste liquide très longtemps. Et on a ici du miel plutôt de colza et de pissenlit qui
Et comment tu sais à peu près, c'est par rapport à la période où il est produit? Alors que moi, tu sais quelles sont les fleurs qui sont...
Moi, c'est par rapport à la période où il est produit, puis je sais où sont mes ruches. Mais faire des tests, puisque dans le miel, on retrouve quand même un petit peu de pollen. Et le test, il n'est pas vraiment fait sur les sucres, mais sur les pollens qu'on peut trouver à l'intérieur. Donc on arrive à reconnaître les grains de pollen. Et puis.
Et est-ce que toutes les fleurs permettent de faire du miel? Par exemple, tu mets des fleurs d'ornement chez toi, les abeilles vont aller sur certains types de ce qu'ils sentent comme étant nourrissant pour eux, pour faire des réserves, en fait, certainement.
Alors déjà, il faut que la plante produise du nectar.
Oui,
toutes les plantes ne produisent pas de nectar. Et puis, elles le produisent à certains moments de la journée. Donc, elles ne le produisent pas tout en même temps. Elles en plus ou moins grande quantité aussi.
D'accord.
Pour ce qui est du pollen, puisqu'elles se nourrissent aussi de pollen, donc elles se nourrissent de nectar, c'est ce qui leur donne le sucre, leur énergie. Mmh. Le pollen, c'est une source de protéines, donc c'est leur viande.
Mais...
L'équivalent, oui.
On a perdu tout notre... nos auditeurs vegans.
Non, mais justement, oui. Eux comprennent bien ce que je dis quand je dis que le pollen, c'est leur viande. Puisque
leur source de protéines.
Leur source de protéines. Donc, ils récupèrent ce pollen sur aussi certaines plantes, puisqu'il y a des plantes dont le pollen n'est pas destiné aux insectes. Donc, il y a des plantes qui sont anémophiles, avec des pollens anémophiles qui s'envolent. C'est ceux qui vous produisent vos allergies. En fait, le grain de pollen a des poils qui sont très longs autour de lui, et c'est ces poils qui vous chatouillent. Le pollen de plantes entomophiles, dont le pollen se balade grâce aux insectes.
Ouais.
Donc là, on a de grosses productions de pollen, des grosses productions de nectar pour attirer ces insectes, puisque c'est comme ça que ça fonctionne.
Darwin, la nature est bien faite, quand même.
Darwin l'explique mieux que moi, mais...
C'est vrai qu'on l'invite.
D'ailleurs, c'est vrai qu'il expliquerait mieux. Hein.
Donc voilà, c'est ces plantes qui vont produire en général du nectar et attirer les abeilles, et pour le nectar, et pour le pollen, pour qu'ils soient baladés. Une abeille, quand elle sort pour récupérer du nectar, elle va visiter en général 100 à 300 fleurs sur sa sortie. Une ruche, c'est plus de 100 000 fleurs visitées dans la journée.
D'accord, quand même.
Je propose, Nico, qu'on reprenne tout à l'heure cette discussion. En attendant, j'ai fait tourner un petit miel de printemps de Benoît. Là, je ne sais pas ce que vous en pensez.
Excellent.
Excellent,
c'est bon.
Franchement,
Et donc ça c'est miel printemps.
On peut dire la vérité, hein, c'est pas parce que oui.
Non, non, c'est sûr. C'est
non, non.
Quand on dit miel de printemps, c'est qu'il a été produit au printemps, enfin peut-être pas.
C'est que les abeilles l'ont récolté pendant le printemps.
Et toi, tu le produis quand? Tu le mets sur le marché quand? Il faut combien de temps entre le moment où il est produit et le moment où il est
mis en vraiment au printemps. Ouais.
Bon, en général, je le finis sur la fin du printemps, je le mets en pot
d'accord.
Début juin.
Il n'y a pas de comme du vin où il faut le laisser un peu de maturation ou de choses comme ça. Il y a pas de, il est prêt à être
idéalement,
vendu quoi.
Idéalement, il faut le consommer le plus vite possible, ouais. Puisque c'est dans les 6 premiers mois que le miel. Alors, je vais pas me mettre en tant que médecin ou mais
t'as fait médecine, t'as fait médecine,
j'ai fait, j'ai fait, j'ai fait médecine puisque c'était une de mes idées qui m'est passée par le miel, c'est pendant les 6 premiers mois qu'il a vraiment encore toutes ses
qualités,
vertus,
en fait.
Qualités, ouais, voilà, okay. toutes les enzymes qui sont encore bien vivantes à l'intérieur puisqu'il reste vivant,
c'est un produit vivant, ouais. D'accord.
On peut poser juste une petite dernière question?
Ben non, non.
C'est par rapport aux ruches.
Mais c'est
est-ce que tu peux nous dire deux mots sur le langage des abeilles? C'est-à-dire que cette danse qu'elles pratiquent pour indiquer à leurs congénères des zones potentielles de nectar, quoi.
Est-ce que tu le connais? Est-ce que tu peux nous le reproduire?
Est-ce que c'est une.
Moi, je vous fais la danse pour chasser les abeilles.
Alors, on le voit.
Ça existe pas. Enfin, c'est vraiment un langage.
Ça existe vraiment. Il faut, je pense, pour le voir, il faut savoir que ça existe, puisque on a découvert ça il y a peu de temps.
C'est ça.
Enfin, peu de temps, c'est quelques dizaines d'années.
Ouais.
Non,
ouais.
Pas moi. Mais effectivement, on les voit clairement danser sur les cadres, faire des ronds et puis se dandiner des fesses.
Tu fais pas mal déjà. Hein.
Et on visualise. Indiquer des directions, en fait,
et donc,
finalement.
Et donc, on a découvert que c'était pour indiquer des directions et des distances.
C'est ça.
Donc, suivant l'endroit où se trouve la source de nectar. Donc, l'abeille revient à la ruche. Donc, il y a des abeilles qui ont ce rôle de faire des recherches, qui sont tout le temps en train de
fouiller. Des éclaireurs,
partout,
en fait, un peu.
Des éclaireuses,
quoi.
On les appelle comme ça, les éclaireuses. Et elles trouvent une source, elles reviennent, elles font goûter. Donc, elles s'échangent ce qu'elles ont récupéré comme nectar. Et puis, si leurs amis trouvent ça sympa, elles disent, vas-y, explique-nous d'où ça vient. Elles font là sa petite danse et elles repartent à 4.
Une sociologie des abeilles.
Et elles reviennent. Une
sorte de réunion Tupperware de l'abeille.
Et du coup, après, ça gangrène. Enfin, elles sont de plus en plus à faire la danse pour indiquer la même direction, la même source.
Et Lulu ne se sert pas de son GPS. Il demande à Didou la route, en fait. Pareil. Elle fait une danse un peu improbable aussi. Et puis. Très bien, écoute, on va faire une petite pause dans cet entretien qui est assez passionnant. Je vois que tout le monde a plein de questions encore. Je vois que Christophe
surtout,
a encore plein de questions.
On s'aperçoit qu'on connaît mal finalement le.
Ah bah complètement,
sujet.
Ouais, tu vois. Il y en a qui ont bossé avant de venir. Hein. Et donc, pour rester dans le thème plus ou moins proche du sujet, c'est Ludo qui va continuer le déroulé de l'émission avec un sujet, je crois, qui est. Tu t'es creusé les méninges pour trouver quelque chose en relation avec notre invité.
Oui.
Alors,
Je parle dans 2 minutes après le jingle.
Et maintenant, la bandelette de Prout.
Hello and welcome. Hit the record button.
Il t'a plu le film?
Moi je reviens avec ma Madeleine de Prout, pour une
Proust,
nouvelle pour une nouvelle saison. Et en fait le principe, je dis ça pour Benoît Gaudrin, je veux dire
Benoît Goudron.
J'essaie dans la mesure du possible de trouver un lien aussi ténu que possible des fois avec l'invité, mais bon voilà, alors je voulais miel des abeilles, c'est pas trop ma cam en fait, mais j'aurais pu parler du miel des abeilles. Non, je voulais plus parler de films. Et j'ai pas trouvé grand chose sur les abeilles que j'ai vu, donc du coup
Candyman quand même.
Il y a Candyman, ouais, c'est vrai, j'aurais pu parler de Candyman. Mais bon,
l'invasion des abeilles tueuses,
les abeilles tueuses
aussi, ta Swarm aussi. Mais enfin rien il faut un truc qui me fasse
faire vivre.
Voilà, donc du coup, j'ai un peu élargi le spectre pour être tout à fait honnête et donc j'ai quitté nos chères abeilles pour parler des insectes en général. Et puis surtout, il y avait aussi autre chose qui m'intéressait parce que j'aurais pu parler du coup comme film. Du coup, les insectes, on peut parler de l'Empire des fourmis géantes, on peut parler de Phase 4, on peut parler des insectes de feu.
La mouche.
Ah, mais c'est ça.
Phase 4, etc. Et oui.
La mouche.
Et j'ai pensé à un film. Mais on aurait pu parler aussi de la mouche. Et on va parler de la mouche. Et pourquoi ? Mais pas seulement parce que c'est un hommage aux insectes, mais c'est aussi parce qu'en fait, c'est aussi un hommage à Freddy. Parce que finalement, la mouche, c'est un peu la combinaison moléculo-génétique de ces deux hommages entre l'insecte et la transformation physique de Freddy. Et notamment la transformation physique de Freddy en une chose que la nature même réprouve. Donc c'est parti. Donc on va parler effectivement de la mouche. Et de quelle mouche on va parler ? C'est une évidence. La mouche de David Cronenberg, sortie en 67, en 87, pardon, sortie en France, et donc il y a un peu plus de 30 ans maintenant. Et donc, La mouche, ou bien l'ultime film d'amour romantique par excellence. Alors, La mouche, je vais vous donner un petit contexte quand même, un petit peu, histoire de vous replacer. Est-ce qu'il y en a qui ont vu, tout le monde a vu le film ici ou pas ?
Oui.
Non.
Grosso modo, tout le monde le connaît. Benoît, tu connais le film. Donc, je vais vous rappeler un petit peu. Hein, l'idée de La Malle de Proud, encore une fois, c'est pour redonner envie aux gens soit de le voir, de le découvrir. Alors,
ou pas.
Un petit peu de contexte quand même. Au départ, La mouche, c'est une nouvelle. Une nouvelle de Georges Langelaine. D'accord ? Alors, ce gars-là, Georges Langelaine, a un profil un peu particulier. C'est un franco-britannique. Il était journaliste. Et ouais, vous voyez déjà le mélange, un franco-britannique. Et né en 1908. Et alors, la particularité de ce gars-là, c'est qu'il était journaliste et il était également agent secret. Pendant la Seconde Guerre mondiale, et c'est une anecdote un peu marrante, il travaillait pour le MI5, le MI5, et oui. Et à l'occasion d'une de ses missions, il s'était notamment, pour l'anecdote, entièrement fait refaire le visage. Il s'était fait recoller les oreilles, oreilles recollées, double menton, comme Freddy. Et Langelaine était devenu George Langdon, et effectivement, collabo pétainiste, il a été parachuté en France pour effectivement prendre cette couverture. Hein, et il a été attrapé, il s'est fait attraper. Et il s'est
comme
fait emprisonner en camp, dont il a réussi à s'évader en 42. Bref, il a été même l'un des premiers soldats britanniques à rentrer lors de la libération à Paris. Enfin, il a vraiment une vie assez mouvementée. Et il a notamment écrit pas mal de choses là-dessus. Mais il est surtout principalement connu pour une de ses nouvelles qu'il a écrite en 57 en Playboy, qui s'appelait donc La mouche. Et La mouche. Et alors cette histoire, cette nouvelle a d'ailleurs été adaptée au cinéma en 58. Avec un film qui s'appelait La Mouche Noire, un film de Kurt Neumann.
C'est La Mouche Noire.
C'est La Mouche Noire. Et juste, c'est La Mouche Noire. Et en fait, La Mouche Noire, qui a donné d'ailleurs à l'époque de suite Le Retour de la Mouche et La Malédiction de la Mouche dans les années 60. Alors en fait, le film La Mouche Noire, La Mouche Noire reprend grosso modo c'est La Mouche Noire.
Non. Starlet le fait mieux.
Vas-y, Starlet, refais-nous-le.
La bouche pleine.
Bon, écoute. Bref. Alors le premier film, La Mouche Noire, reprend grosso modo la nouvelle. Je ne sais pas si vous connaissez un peu la nouvelle ou le film initial. Le principe, pas
j'ai
du tout.
J'ai vu le film initial, mais de...
Alors, parce qu'il y a une... Voilà, ouais. Il y a une vraie différence avec La Mouche de Cronenberg, je vais y revenir. La Mouche Noire, le film donc, reprend la nouvelle. Et dans la nouvelle, certes, la téléportation a été inventée. Alors, je dis attention, spoiler, pour ceux qui voudraient éventuellement voir le film, quoi que ce soit, tant pis, hein, vous passez, parce que là, je vais y aller. Le film est quand même, à maintenant, quand même... Waouh, on est en 2018, donc vous rajoutez hein, 68 ans. Donc,
je suis surpris, Starlet.
60 ans, pardon.
On considère. Moi non plus.
J'ai jamais vu la mouche.
C'est vrai ?
T'as pas vu la mouche ?
Non, j'ai pas vu la mouche.
T'as pas vu la mouche ? Alors.
T'as vu le loup, mais pas la mouche.
grosso modo, le principe de base de la nouvelle et qui est repris aussi dans le film de Cronenberg, c'est qu'un savant invente une machine à téléporter. Et puis en fait, il va se faire téléporter, sauf qu'il s'est téléporté en même temps qu'une mouche qui se trouve en même temps que lui.
Oh, vraiment,
t'as bien spoilé. Hein.
Oui, je pense que tout le monde l'avait deviné. Ouais. En gros, et dans la nouvelle initiale, dans l'histoire originale, la nouvelle et le film qui avait été fait à l'origine, le gars ressortait avec une tête de mouche, une patte de mouche, et puis il passait tout le film à essayer de retrouver la mouche qui avait la tête de mec et le bras de mec.
Ah.
Parce qu'évidemment, le gars, le but du jeu, c'était qu'il retrouve cette mouche pour pouvoir la choper et essayer d'inverser le processus, bien évidemment. Tout ça se termine
dans un bain de sang.
Dans le drame et les larmes. En étant 58, ça allait à peu près, mais effectivement.
Vous n'avez pas de sang ?
La fin de la nouvelle et la fin
58,
du film.
Le sang n'était pas encore.
Mais vous n'avez pas encore inventé.
La fin du film était effectivement à l'époque extrêmement, terrifiante pour les gens, pour le public de l'époque, puisque le savant à tête de mouche finissait par se suicider. Et que les personnages principaux finissaient par retrouver la mouche à tête humaine engluée dans une toile d'araignée Et donc, au moment où elle allait se faire dévorer par une araignée,
c'est horrible.
Évidemment, le personnage principal écrase la mouche et l'araignée, je dirais, là-dedans. Et la mouche, on l'entend donc à la fin du film qui dit au secours. En fait, c'est la tête humaine prise dans le corps.
Est-ce qu'elle a voulu se suicider en se jetant contre une vitre sans arrêt?
Alors, non, l'histoire ne dit pas.
Sinon, la tête, elle était proportionnelle à la proportionnalité entre la mouche et la tête humaine, c'était.
Tu parles dans le corps de mouche ou tu parles dans le
corps de mouche?
Non, la tête était réduite en fait.
Ah bon?
Elle était réduite.
Ah, parce que ça aurait fait bizarre, ouais. Non, ça aurait fait bizarre si tu avais une mouche avec une tête d'homme.
Oui, surtout, ils l'auraient trouvé plus vite en fait.
C'est ça.
Ils n'auraient pas attendu une heure et demie pour trouver le
Ça fait penser à Cornu dans les vieux Guy Watch.
Pour s'envoler, ça aurait été compliqué aussi.
Voilà. Cornu. 30 ans après, en fait, David Cronenberg, cette fois-ci, lui, on lui propose de faire un remake de ce film-là. Et lui, en fait, David Cronenberg, pour le présenter rapidement aux gens qui ne le connaîtraient pas, David Cronenberg, c'est un réalisateur canadien qui est, dont la spécificité, c'est, à l'époque, en plus sur la première phase de sa carrière cinématographique, c'est ce qu'on appelle le body horror. En fait, les obsessions de David Cronenberg tournaient énormément autour du corps humain, mais également de la mutation, de la dégénérescence du corps humain et même de la maladie ou de la mutilation. Bref, c'est très je sais pas, il y a des films qui vont peut-être vous parler, Rage, Frisson, Chromosome 3, c'est tout un tas de Vidéodrome, c'est ce genre de film là en fait dans lequel il était vraiment il avait sa réputation dans ce milieu-là. Et en fait la mouche justement, il va y voir l'occasion, je dirais, d'y quelque part d'afficher en tout cas d'y injecter un peu toutes ses obsessions en plus avec un budget important. Et c'est ce film-là, d'ailleurs, qui va vraiment presque le révéler. Il avait été un petit peu révélé avec Dead Zone, mais vraiment, La Mouche va avoir un très beau succès à l'international.
Dead Zone adapté de Stephen King.
Exactement.
D'accord.
Voilà. Excuse-moi, on parlait de Candyman, par exemple, tout à l'heure, mais pour le coup, La Mouche, il a quand même plutôt pas mal vieilli, je trouve.
Ah, La Mouche a très très bien vieilli, je trouve.
C'est un chef-d'œuvre pour moi, La Mouche. J'ai adoré, j'adore le revoir. Et j'ai revu Candyman, mais j'ai trouvé ça...
C'était bien, Candyman.
Oui, mais...
J'étais resté avec cette idée, et j'ai revu il n'y a pas longtemps, et c'est...
T'as déjà dit Candyman plusieurs fois?
Trois fois dans le miroir.
Moi, j'ai jamais fait.
Je suis assez d'accord, la mise en scène, elle est plus...
esthétique, et là, voilà. Quoi,
la mouche, tu regardes... Alors, il faut savoir, je vais venir un petit peu après, mais par exemple, il y a eu un Oscar pour le maquillage. Chris Wallace, le maquilleur, a reçu un Oscar pour l'occasion, et les maquillages physiques ont très très bien vieilli aussi. Mais il y a aussi toute la mise en scène de Cronenberg qui joue énormément, et puis surtout il y a une chose qui est importante, mais je vais vous le dérouler un petit peu après, mais enfin maintenant d'ailleurs, ce qui est important, non, je vais en reparler, pourquoi à mon avis une des raisons pour lesquelles le film a si bien vieilli, juste pour dire, c'est que Cronenberg a accepté le remake en disant, moi, ok, très bien pour faire un remake, mais par contre, mon idée, c'est pas aller de refaire le film de 58 avec l'effet et tout. Moi, justement, ce que je veux, c'est une adaptation, c'est plus qu'un remake, c'est qu'en fait, le film, on va assister, effectivement, comme vous l'avez tous vu, à cette lente, je dirais, dégradation.
Comme ils l'ont pas tous vu, justement.
Pardon, comme Starlet, tu l'as pas vu, excuse-moi.
En fait, Nico non plus.
Tu n'as pas vu La Mouche, pardon.
Mais non, mais ça fait trois fois.
Excuse-moi.
Je ne l'ai pas vu en 30 ans.
On a du mal à le croire. Oui.
D'accord, donc je vais être... En fait, en tout cas...
Grave. Je ne sais pas si j'ai au spoil, mais c'est pour nos auditeurs, ça peut être...
Voilà, donc attention, mais je ne vais pas rêver
à
la fin du film. Non, mais je ne vais pas regarder la fin du film.
On ne va pas rester là ce soir, en fait.
C'est le principe, c'est qu'en fait, effectivement, on a toujours les mêmes bases de l'histoire, c'est-à-dire que le savant... qui est joué par Jeff Goldblum.
Super prestation.
Rencontre en fait Gina Davis, qui va jouer le rôle de la journaliste qui va le suivre et dont il va tomber amoureux. Et ces deux personnages, en fait, évidemment, vont vivre cette histoire d'amour très très forte, en fait. Et je vous passe un triangle amoureux, puisqu'il y a un autre personnage qui entre dans l'histoire, qui justement va être indirectement la cause du drame. Puisqu'en fait, Jeff Goldblum, persuadé que sa copine a une aventure, en tout cas avec son ancien fiancé, va, une nuit alcoolisée, décider de tester lui-même la machine et malheureusement laisser passer une mouche dans l'engin. Ce qui se passe, c'est que la machine, le principe de la machine téléportation, c'est qu'elle, décode le code, enfin on va dire décode, elle analyse le code génétique, elle décompose le code et elle va recomposer les deux codes et elle va réassimiler au niveau génétique le comment on appelle ça, un nouveau, je dirais,
un mélange,
elle intègre l'ADN de la mouche dans le corps,
c'est un OGM,
pour créer une nouvelle créature. Bien évidemment, au début, le savant se sent très très fort, il sent pleine forme, et puis... Et là, je m'arrêtais là, mais le film va décrire...
Il se prend un coup de tapette. Paf, la mouche.
Et paf, la mouche. Et donc, on va assister effectivement à cette lente dégénérescence du savant. Et en même temps, on assiste aussi à la dégénérescence, à la dégradation de la relation amoureuse, encore que la journaliste va essayer de le suivre, de le sauver. Et puis bon, il faut voir l'histoire. Sachant que derrière, évidemment, il y a un petit gag, puisque évidemment, elle tombe enceinte entre les deux. Voilà, je n'en dis pas plus. Donc, comme je vous disais, en fait, sur le principe, c'est que ce qui est intéressant dans le film, c'est justement les personnages qui sont énormément développés. Pour moi, c'est donc, je te dis, une des causes les raisons pour lesquelles le film il a aussi bien vieilli. C'est qu'en fait, c'est pas simplement qu'un film de monstre, je dirais lambda ou encore
finalement, la performance visuelle peut vite passer au second plan quand elle est.
Exactement. Là, en fait, c'est un vrai drame. Et en fait, on est très, très, comme tu disais tout à l'heure, Freddy, les personnages sont. Jeff Goldblum, il fait une prestation incroyable, quoi. Vraiment, Gina Davis, elle est fantastique dans le rôle. Il faut savoir qu'en fait, Gina Davis et Jeff Goldblum étaient ensemble dans la vie à l'époque. Ils étaient en couple. Et d'ailleurs, David Cronenberg leur avait demandé de jouer. En tout cas, d'essayer de retranscrire cette intimité à l'écran.
La mouche elle-même avait un jeu
absolument fantastique. C'était incroyable. C'était un truc de dingue.
Je crois que c'est à l'occasion du film que Gina Davis a testé les pods, là, et puis a fusionné avec un canard, non?
Non, ça, c'était Meg Ryan.
Oui, ça, un peu aussi.
Bref, comme je vous disais, en fait, ce film a énormément marqué le public à sa sortie. Ça a été un très gros succès pour Cronenberg. Sinon, en tout cas, à ce moment-là, ça a marqué vraiment un tournant pour lui. Alors, il faut savoir, par contre, pour les âmes sensibles, bon, pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est que le film contient son lot de scènes particulièrement répugnantes, pour ne pas dire vomitives, hein, je le précise tout de suite. Ah oui, notant quand la maladie commence à gagner. Je dis la maladie entre guillemets, puisqu'en fait, c'est assimilé à une forme de cancer, en fait.
Freddy, à côté, sérieux.
Gagne du terrain. Et donc, ça commence par des taches, de la décoloration, des poils qui commencent à pousser comme des espèces de poils un peu durs.
Des lambeaux de peau qui partent.
Et puis après, ça commence à être des lambeaux de peau, des ongles, des dents, des oreilles, bref. Et puis bon, avec toute l'évolution physique qui suit. C'est crade, mais comme je vous disais, en fait, ce qui est intéressant aussi, hormis l'aspect entre le couple, c'est aussi il y a un aspect, je trouve, psychologique qui est vachement développé sur, là encore une fois, c'est sur la maladie énormément. C'est-à-dire que on peut même y voir une analogie avec le cancer, comme je disais, avec une forme de cancer incurable où on passe par ces phases de déni, de colère, puis d'acceptation. Enfin, il y a vraiment, le film, il fonctionne vraiment sur plusieurs niveaux qui, de mon point de vue, font que je trouve justement, quand on revoit le film avec les effets spéciaux,
ça reste d'actualité. Ça,
le film reste complètement d'actualité et le film fonctionne très bien. Je l'ai montré à mon fils il y a pas très longtemps, qui est complètement rentré dedans, avec une mise en scène très au cordeau, très sèche. Enfin, c'est vraiment, la fin du film est extrêmement sèche. Enfin voilà, l'histoire se termine, elle se termine. On n'épilogue pas 15 plombes dessus.
On va pas faire un 2, quoi.
Alors, je vais y venir.
Justement.
J'allais y venir.
Vous avez tout préparé, vous allez répéter ça.
Donc, il y a également une chose importante, c'est aussi le score, la musique du film qui est réalisé par Howard Shore, qui est une BO qui est extrêmement puissante et très dramatique, en fait. Et elle a une force d'évocation qui sur les scènes dramatiques vraiment chope, en tout cas moi me file les poils, c'est le cas de le dire. Oh, je suis drôle. Voilà. Bref, ce film a donné lieu à une suite, La Mouche 2 en 89, qui a été réalisée par Chris Wallace, qui était la personne qui a conçu les effets spéciaux. Et là, bon, malheureusement, c'est le drame. Et là, c'est le drame, c'est typique de la suite, je dirais. Le film de monstre de vengeance, enfin, bref, pas vraiment, bon, y a pas un grand intérêt à voir ce film. Je sais pas si vous l'avez vu.
Non. Je vous le conseille. En tout cas, si je l'ai vu, aucun souvenir.
Ouais, je vous le conseille pas spécialement maintenant, sauf pour les amateurs, mais on n'y retrouve pas du tout cette force dont je parlais tout à l'heure. Qu'est-ce que je voulais? Oui, et puis pour finir, en fait, bon, donc il y a eu cette suite, mais il y a également eu un opéra. Étonnamment, un opéra en 2008.
Récent, en plus, ouais, d'accord.
Ouais, tout à fait. Ça a été donc l'opéra qui a été coécrit par Howard Shore, donc le compositeur, et David Cronenberg, et dont la première a eu lieu au Théâtre du Châtelet à Paris.
Connaissez Madame Butterfly.
Voilà, tu sais qu'en plus, comme Cronenberg a fait un film sur Madame Butterfly par ailleurs, La boucle est bouclée, quoi. Et donc, il y a eu donc un opéra, On a parlé par ailleurs d'un remake possible, c'était en 2009, mais remake que Cronenberg aurait souhaité réaliser lui-même en disant « si je fais un remake, ce ne sera pas qu'un remake, ce sera, j'irai encore au-delà ». Mais bon, depuis, il n'y a pas eu de suite vraiment donnée. D'ailleurs, c'était en 2011, d'ailleurs. C'était pas en 2009. En 2011.
Soit précis.
Ben, c'était il y a sept ans déjà.
J'ai eu l'élégance de ne pas relever.
Il y a sept ans. Donc voilà. Juste pour terminer, pour ceux que ça intéresse, que ça intéresserait d'aller creuser un peu le sujet. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu le film, allez voir le film. Encore une fois, si vous êtes des âmes sensibles, bon, je préviens quand même.
Ça reste assez grand public malgré tout.
Oui, il est interdit moins de 12 ans quand il est sorti. C'est pas un film qui fait peur. C'est plus un film qui peut vraiment
qui marque en tout cas.
Tu peux avoir une sensation de dégoût en fait. Vraiment, il y a des scènes qui sont un peu répugnantes. Enfin, ou tu peux trouver répugnantes. Hein, vraiment, je préfère le dire parce que c'est. Mais bon, il y a encore une fois, je pense que vraiment il faut le découvrir.
C'est à toi le DVD là, Ludo ?
C'est mon DVD. Petit coquin, mais bien sûr. donc voilà. Ce que je voulais dire, c'est que oui, il y a pour ceux qui voudraient creuser le sujet, hormis le film, c'est qu'il y a un excellent Split Screen qui est un podcast
qu'on cite assez souvent. En fait.
Qu'on cite assez souvent, mais alors qui généralement traite de films de très en profondeur, et notamment ils ont fait
en post-prod souvent.
Exactement.
Les coulisses de tournage.
Exactement. Et là ils ont fait un épisode qui est vraiment très très intéressant parce que là ils vont vraiment très loin dans les coulisses de tournage, la réalisation technique, les scènes coupées. Donc pour ceux que ça passionne, c'est passionnant. Hein, ça s'écoute.
Oui, oui.
Mais voilà, c'est vraiment.
Mais ça dure plus. Un entrepôt d'ennemis à peu près. Hein.
Bah ça, c'est voilà.
Entrepôt de nouvelles formes.
C'est aux alentours 3 heures et demie.
Voilà, il explore tous les aspects du film. Donc voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Donc allez-y, allez jeter un coup d'œil dessus, c'est vachement bien. Et je laisserai le dernier mot au nul qui avait fait une petite blagoudette avec Paul Schiffen, une petite contrepétrie, puisque comme ils avaient dit, après la mouche de David Cronenberg, la mèche de David Cronenbourg. On s'éclate. Voilà, courez-y.
Je sais pas comment t'arrives à te relire avec ton écriture.
Mais je me relis pas vraiment.
Pas de...
Elle est bonne celle-là, elle est bonne.
C'est un film qui fout le bourdon quand même.
Je crois que celle-là était mieux à l'heure que...
on va couper court à ces choses.
Désolé.
On va revenir avec Benoît pour parler un peu de choses sérieuses.
Revenons à nos bourdons.
Et donc oui, on va revenir sur les différents sujets. On t'avait un petit peu interrompu. Mm-hmm. Tu nous parlais de la vie des ruches. J'étais surpris. J'ai entendu un chiffre tout à l'heure. Tu disais qu'il y avait 10 à 20 000 abeilles dans une ruche
en hiver.
Donc
50 000 au printemps.
Dans une ruche ou dans un rucher, c'est-à-dire
dans une ruche.
D'accord.
Un peu comme l'île de Ré, quoi.
Non, mais c'est ça, oui. C'est il y a.
Donc chez toi,
on se rend pas compte, mais
tu as autant d'abeilles qui habitent là, en fait.
Qui habite là. Donc oui, dans un rucher genre. D'une dizaine de ruches.
Et nous non plus, on le comprend pas.
On a rapidement un demi-million d'abeilles, oui.
Ah oui.
Wow. Ah ouais, quand même.
Donc pour la pollinisation, je parlais tout à l'heure du nombre de fleurs qui pouvaient être butinées par une ruche, enfin les abeilles d'une ruche, les butineuses d'une ruche, c'est énorme. On approche la centaine de milliers pour une ruche par jour.
D'où l'importance de leur préservation pour.
Mais justement, est-ce que tu peux nous dire. En quoi c'est important pourquoi on en parle autant et pourquoi elles meurent?
Alors,
pourquoi c'est
emblématique finalement?
Pourquoi c'est emblématique? Il y a déjà, on parlait tout à l'heure de l'engouement aussi des gens pour les abeilles maintenant. Il y a ce côté retour aux sources pour la production donc de sucre, ces œufs du jardin, etc. Donc là, le sucre.
Ouais, le potager, même, tout ça, ouais, ça
c'est quand même,
dans le.
C'est quand même une consommation importante qu'on a,
qu'on a à
au
cette
quotidien.
Table,
et donc produire son propre sucre, c'est la ruche, c'est la façon facile de le faire finalement. Ta question.
Pourquoi on en parle autant?
Pourquoi
c'est important de sauver les abeilles? En quoi elles sont importantes dans la biodiversité?
L'écosystème.
Donc, effectivement, ça pollinise énormément les plantes et jouent un rôle majeur là-dedans. Mais elles ne sont pas les seules à polliniser, puisqu'il y a des tas d'insectes qui pollinisent les plantes. Cependant, c'est un des rares insectes qu'on surveille tous les jours, puisque nous, apiculteurs, on est en train de surveiller nos ruches. Et dès qu'il y a un problème.
Vous en rendez compte.
C'est un marqueur visible, tu veux dire.
Oui, c'est ça. Oui.
Donc on dit l'abeille sentinelle de l'environnement, en fait. Bon, c'est peut-être ou l'apiculteur.
C'est plus l'apiculteur qui surveille l'abeille qui est le sentinelle.
Mais elle est au front en permanence. Et donc on se rend compte tout de suite s'il y a un problème. Si nos abeilles meurent aujourd'hui,
donc nos abeilles domestiques, nous apiculteurs, les abeilles solitaires dont on parlait tout à l'heure, donc je parlais de à peu près un millier d'espèces en France, sont menacées tout autant. Donc sur ce, je crois que c'est 2000 espèces en Europe, et sur ces 2000 espèces, on frôle les 10% d'espèces en voie d'extinction. Donc ça commence à faire beaucoup, ouais. 10%. Ouais. Donc voilà, donc on en parle beaucoup à cause de ça. Donc on a tout le phénomène autour des pesticides, mais il y a rien de nouveau. Les pesticides, ça fait longtemps qu'ils sont. Enfin,
c'est surtout la prise de conscience. C'est ça.
Cette prise de conscience, peut-être cette volonté de mieux consommer. On en est loin encore. Il y a presque que ça de bien sur la table.
Tu déconnes un peu, il y a quand même des Oréos quand même.
cette volonté de mieux consommer aujourd'hui. Et donc on commence à se dire, mais tiens, mais qu'est-ce qu'on
mange ? D'où ça vient,
d'où ça vient ? Et puis donc, effectivement, il y a des pesticides dans nos champs, mais parce qu'on a besoin de produire aussi. On est 7 milliards d'habitants sur la planète. Il faut produire pour tout ce monde-là. En plus, dans tout ce monde-là, ceux qui mangent le plus mangent généralement de la merde. Et puis, on a besoin de produire de la merde pour vendre de la merde, puisque les gens veulent en acheter.
Mais oui.
On va devenir des mouches.
Simplifie au maximum.
Mais comment ils balancent ?
On a tous en tête, je sais pas si vous avez vu forcément, ces derniers mois, la vidéo de cet apiculteur qui entre dans une colère noire, qui découvre ses ruches mortes au sortir de l'hiver. Est-ce que toi, t'as connu ça ? T'as eu cette expérience-là ? Est-ce que t'as pu...
J'ai vu cette vidéo. Donc j'ai pas eu le même œil que vous sur la vidéo.
Ah, c'est intéressant.
Effectivement, la personne que je ne connais pas découvre ses ruches mortes. Les ruches posées sur des pneus,
c'est pas terrible,
à 20 cm du sol, on hiverne rarement comme ça. Mais
j'aime bien quand ça dénonce.
C'est un petit peu décodeur de ce qu'on peut avoir effectivement.
C'est intéressant.
La société de on s'émeut sur tout ce qui passe sans forcément comprendre pourquoi. Donc les images.
J'essaie d'être critique.
Donner ton avis,
c'est juste. Je vais pas l'accabler, le pauvre. Il perd toutes ses abeilles, c'est très dur. Et on te demandait tout à l'heure pourquoi aussi, une fois qu'on a mis le doigt dedans, on s'y attache. C'est parce que c'est du vivant.
J'ai bien l'idée sur
on parle toujours de la même chose ou
Moi, c'est pareil avec ma femme.
C'est ça. C'est du vivant. C'est du vivant et donc on s'attache à ce. À nos animaux.
Ouais, bien sûr, oui.
Et donc, on veut le meilleur pour eux-mêmes. Et donc, effectivement, quand on arrive et que tout son cheptel est mort, ça fait mal au cœur.
On parle de cheptel, oui, comme les
bétails. Comme le bétail, comme un élevage d'animaux.
Enfin, non, mais on pourrait dire.
T'as déjà vécu cette situation ?
Toutes les ruches mortes, non. Perte des ruches, oui. En tout cas, tous les hivers, je m'angoisse pour mes abeilles. Lui, il accuse les pesticides. Bon, effectivement, les pesticides, on va pas dire
ça aide pas, quoi.
Ça aide pas, un insecticide, ça fait forcément pas de bien aux abeilles. Un insecticide ou autre, ça fait pas forcément du bien à l'homme non plus. Il y a pas que ça qui tue
nos abeilles. Un hiver très rude peut être un facteur.
On a eu cet hiver un hiver très particulier, donc pas rude au niveau du froid, mais extrêmement pluvieux, très peu lumineux. On n'a pas eu de lumière. Ouais. Les abeilles, je disais tout à l'heure, du coup, qu'elles pouvaient sortir butiner du noisetier au mois de janvier. Donc, c'est anecdotique, c'est très peu, et rentre très peu de pollen, très peu de nectar à ce moment-là. Mais en général, elles peuvent sortir un jour ou deux dans le mois. Mais cette année, on n'a rien eu du 1er décembre jusqu'au 6 avril pour nous en Normandie.
Oh, wow. Ah ouais.
On n'a pas eu une journée où elles ont pu sortir. C'est extrêmement long et c'était très difficile de leur faire passer cet hiver. Elles font des réserves, on leur en vole une partie. Peut-être que si on leur avait laissé les réserves et qu'on n'avait pas fait de miel, mais si on faisait pas de miel avec nos abeilles, on n'aurait pas d'abeilles.
Bah oui.
Parce que c'est aussi comme ça qu'on finance le truc.
Oui.
Donc peut-être que si on leur en avait laissé, peut-être qu'elles auraient tenu. Et encore, elles peuvent pas rester sur des vieux stocks, elles se nourrissent au bout d'un moment.
Tu peux pas leur apporter un steak haché, un truc l'hiver.
Donc oui, on peut leur apporter
des compléments.
On peut apporter des compléments l'hiver. Cependant, il faut qu'il y ait des températures minimum. Donc on espérait tous en fait qu'ils se mettent à faire beau. Et on est nombreux à avoir attendu trop longtemps, moi y compris.
Et il y en a qui ont vraiment attendu jusqu'au bout du bout. Et,
il ne s'est rien passé.
Et donc,
c'était trop tard.
C'est-à-dire, comment ça, attendu? Parce donc, que elle, tu fais une
action.
Pourquoi
elles ne sont pas mortes de faim, ces abeilles? On voit clairement qu'elles ne sont pas mortes de faim. Elles sont peut-être mortes de maladies. Il y a 6 mois de l'année, hein, pendant lesquelles elles peuvent. Il y a des maladies qui sont très contagieuses chez l'abeille. Mortes de maladies contractées suite à des morsures d'un parasite, un acarien qu'on appelle le varroa, qui est arrivé en France il y a maintenant une trentaine d'années, donc qui mord l'abeille et qui lui, la blesse.
Oui.
Et les virus se rendent beaucoup plus facilement, donc les maladies dont je parlais il y a 2 minutes rentrent beaucoup plus facilement dans le corps de l'abeille et puis tue la colonie.
Il n'y a pas un autre parasite qu'on appelle la faustaigne aussi.
Donc la faustaigne qui s'installe
qui
dans les ruches
aussi,
qui sont faibles.
Oh, il a révisé tout. La
faustaigne qui s'installe de toute façon dans des ruches qui sont déjà faibles.
Ouais,
donc
ça.
Si on a la faustaigne, c'est déjà qu'il y a un problème. Et il y a un nouveau parasite qu'on n'attend pas avec impatience chez nous, mais qui sévit déjà en Italie. Un petit coléoptère qui pond dans la ruche et puis qui fait des sortes de petits asticots qui se nourrissent de cire et de miel. On se retrouve avec des sortes d'asticots dans le miel.
Peut faire un nouveau produit.
Enfin, tout s'accumuler.
Les protéines avec.
Ces ruches pourraient être mortes d'une maladie quelconque et pas forcément du pesticide. Alors le pesticide, plus le varroa, plus
tout s'accumuler.
Fatalement, c'est difficile de maintenir son cheptel à flot, plus l'hiver. Enfin, tout s'accumuler. Ça fait beaucoup.
Tu parlais de l'argent que vous rapporte le miel et du cercle. Enfin, c'est la raison pour laquelle vous élevez. L'investissement de départ pour commencer, il est.
Alors, ça, bon, on peut démarrer avec une caisse en bois qu'on se serait fabriquée tout seul et puis aller attraper un essaim. Là, pour le coup, ce serait pas grand chose.
Une tenue.
Une tenue pas. Éventuellement. Non mais
ça veut dire qu'il a commencé sans.
Hein. Non mais une tenue, c'est une paire de gants et puis un masque où on peut se débrouiller pour bricoler un truc. Mais sinon, oui.
Enfin, toi, tu peux te débrouiller pour bricoler.
Mais le commun des mortels.
Celui qui voudrait acheter des abeilles, on va frôler, on va dépasser les 150 euros pour les seins. Une ruche, on va être de l'ordre de au moins 100 euros. Une tenue correcte, ça va être autour d'une cinquantaine d'euros avec l'enfumoir, etc. Et là encore, on a juste le matériel pour avoir une ruche. On n'a pas de quoi extraire le miel. Là, on peut rajouter facilement 400-500 euros juste pour un extracteur.
Ah oui.
Oui, c'est un investissement. Et ça a un coût. Les abeilles, on a besoin de leur amener des tas de choses tout au long de l'année. Et non, mais on a besoin de leur acheter de la cire, des choses comme ça. On a besoin
c'est,
de...
c'est pour ça
tu
que
tu leur
vends...
achètes de la cire?
Oui, pour les aider, pour
construire leur
pour
leur
les aider et qu'ils me produisent plus de miel, puisque l'idée c'est de leur faire produire un
plus
maximum
de miel, pour qu'ils leur en restent,
donc je leur amène de la cire.
Ça explique pourquoi tu vends 70 euros le pot de 500 grammes.
Non, mais pour la petite blague, donc je vends mes pots de 500 grammes 5 euros.
C'est pas
la
cher.
Première année, ouais. J'ai fait mon bilan, le pot que je vendais 5 euros me coûtait 35 euros.
Ouais, c'est vrai, la première année.
Ouais. Donc à chaque fois que quelqu'un m'achetait un pot.
Tu perdais 30 balles.
J'aurais été mieux. Je perdais 30 euros.
Il les donnait.
Enfin, si je lui donnais 30 euros, c'était pareil.
Non, mais effectivement, il y a un peu de temps avant d'atteindre la rentabilité.
Ouais. Oui, c'est ça. Oui.
Tu parlais à l'instant d'extracteur. C'est-à-dire, c'est quoi exactement? Parce qu'autrefois, il n'y avait pas. L'apiculture, c'est quelque chose qui date depuis.
Comment on extrait le miel?
C'est pas nouveau, quoi. Comment on l'extrait?
C'est pas nouveau, effectivement. L'apiculture. Je crois que ça doit être 6000 ans.
Voilà, c'est ça. Donc,
ça.
Les extracteurs, c'est
donc,
pas
les
ça.
Les extracteurs, il n'y en avait pas. Mais on s'embêtait un petit peu moins aussi. Hein. Donc aujourd'hui, moi, mes abeilles, je leur prends leur miel, mais je garde ma colonie. Elle me refait du miel l'année d'après.
Pas rancunière.
Voilà.
Un peu con quand même.
si possible. À l'époque, les Romains, par exemple, eux, ils tuaient la colonie. Et puis voilà, ils recommençaient, ils manipulaient pas des cadres comme on fait. Donc après, il y a eu des techniques avec les ruches en paille, là, comme vous avez tous déjà vu ces ruches, avec un petit chapeau qu'on pouvait quand même démonter, on récupérait que la tête, le haut de la ruche. Mais pendant un temps, c'était ça, on tuait la colonie. Mmh. Et donc, le truc, c'est qu'on tue en plus les meilleures colonies, puisque c'était celles qui nous amenaient le plus de miel. Donc, ça va être complètement l'inverse de ce qu'on fait aujourd'hui, où on essaie de garder nos meilleures colonies, reproduire nos meilleures colonies. Et Voilà.
Donc,
on extrait aujourd'hui en ouvrant les. Bon, il faudra un schéma. Ouais. On ouvre les petites alvéoles de miel et on passe ça dans une. C'est juste une centrifugeuse en fait. Hein. Ouais, on fait tourner les cadres à toute vitesse. Okay, donc ça, oui. Bon, ça coûte cher parce que c'est du matériel tout en inox et puis l'inox, je sais pas. C'est le prix de l'or aujourd'hui. On tourne ça à toute vitesse pour faire sortir le miel.
Le miel et la cire restent, quoi.
Les alvéoles, et idéalement, la cire reste sur place. Ouais. On se resserre de ces cadres qui ont été vidés l'année suivante pour que les abeilles les remplissent et qu'elles n'aient pas à tout reconstruire, puisque si elles ont tout à reconstruire, elles dépensent de l'énergie pour reconstruire. D'accord. Et cette énergie,
la mettent pas dans le miel.
C'est vous qui la mangez, en fait.
Ok, d'accord. Freddy,
moi j'ai une petite information consommateur. J'aimerais bien aborder ce point avec toi. On en a déjà parlé.
Un peu dégueu quand même. Ton miel.
On a un peu. Non, on en a déjà parlé entre nous, mais je sais pas si tu peux. On coupera si tu peux pas le dire. Mais tu m'avais parlé de miel étranger qui était pas forcément de bonne qualité, qu'on retrouvait parfois mélangé dans du miel se disant français, par exemple, miel chinois pour pas le nommer.
Il se dira pas. Il se dira pas français. Bon, idéalement, il se dira pas français le miel.
Miel européen.
Ouais, c'est ça. Il faut bien regarder les étiquettes.
Transformé en France.
Quand on regarde les étiquettes, mais on peut produire du très bon miel à l'étranger. Hein,
oui,
d'accord.
Oui.
Enfin, il y a des très bons apiculteurs, même en Chine.
Okay. En vrai.
Non, mais voilà. Après, effectivement, quand on va au supermarché acheter son pot de miel, derrière, l'origine est écrite. Je suis obligé de noter l'origine de mon miel sur mes pots. Je suis obligé d'écrire que je l'ai récolté en France. Sur un pot qui vient pas de France, ça va être écrit donc éventuellement miel d'origine de l'Union européenne.
Et hors
idéalement, Union européenne. Idéalement, ce serait écrit le nom du pays. Et là, on commence à avoir quelque chose de qualité. Sinon, ça va être mélange de miel de l'Union européenne et hors Union européenne. Donc là, c'est complètement flou.
Donc, ça vient de quoi, partout.
Si on produisait du miel sur Mars, il y en aurait peut-être dans le pot.
Il serait peut-être bon d'ailleurs.
Peut-être. Toujours est-il que là, ça commence à être douteux. Et effectivement, on arrive de manière industrielle à produire quelque chose qui ressemble fortement à du miel, mais qui n'est fait qu'à base de sucre.
C'est un miel de synthèse, en fait.
Ouais, à partir de maïs, dont on a modifié l'amidon, on a cassé tout ça. On arrive à faire du miel de synthèse. On réintègre dedans du pollen de ce qu'on veut. Ouais. Et je disais tout à l'heure qu'un miel, on pouvait lui donner une appellation à partir du moment où on retrouvait ce pollen dans une certaine quantité.
Tu retrouves quelques pollens de tilleul et puis tu dis...
Si on veut, du miel de tilleul, il suffit qu'il y ait tant de pourcentage de pollen de tilleul parmi tous les grains qu'on trouve à l'intérieur. On fabrique un truc de synthèse, on balance du miel.
Et on est dans la norme.
En France, on fait pas ça chez nous. Mmh. On pourrait commander ça effectivement à l'étranger, mais c'est loin d'être la grande pratique.
Même dans les grandes surfaces.
Cependant, on peut quand même s'interroger quand on trouve des miels à des prix défiant toute concurrence, voire même limite à la prix du. Au prix du pot.
Du pot de verre, quoi.
Du pot de verre, quoi. Ouais.
C'est ça.
Donc, le miel que je vends personnellement 5 euros, c'est parce que c'est pas mon activité principale. Ouais. Je pourrais pas vendre du miel 5 euros si je devais
en vivre. Si tu pouvais en vivre,
Je me souviens aussi que tu m'avais parlé d'une pratique dont tu avais eu connaissance, qui était la vente de miel en vrac sur le Bon Coin. A priori, à destinataire d'apiculteurs. C'était. Sans du coup avoir la provenance.
Ça pourrait être remis en pot, mais effectivement, les apiculteurs aujourd'hui ont du mal à assurer leur production. La production en France a chuté presque divisé par 3 sur les 30 dernières années. On est plus de la moitié. Cette année, on doit être. Enfin, l'an dernier, on devait être à quelque chose comme 10 000 tonnes contre un peu plus de 30 000 dans les années 90.
Quand même.
La consommation en France, elle, n'a pas baissé. Donc, on est bien au-dessus des 30 000 tonnes déjà qu'on produisait à l'époque.
Donc, on importe.
On importe forcément énormément du miel de qualité, entre autres. Les apiculteurs qu'on a chez nous, qui vivent de leur production, de leur vente sur les marchés, ont parfois du mal à produire leur miel. Et ils vont aller l'acheter chez d'autres apiculteurs, rien de choquant. Ouais, ça peut rester du miel de qualité pour autant. Après, il y aura leur nom sur l'étiquette. C'est eux qui devront en assumer la traçabilité. Donc, ça se fait régulièrement. Quoi. De toute façon, c'est ce qu'on trouve en supermarché. Quand on a des miels étiquetés en supermarché, souvent, on essaie de nous donner l'impression que le pot vient de l'apiculteur.
Avec sa photo, même.
Non, mais presque, quoi. On trouve des pots en carton qui font style un petit peu le pot qu'on trouvait dans notre enfance, etc. Mmh. Et puis, finalement, rien du tout dedans. C'est, si on lit un peu l'étiquette...
Le pouvoir du packaging. Mais
l'anecdote que je donnais, ça existe, ça a existé ou...
Ça se fait. Bon, y a des centrales qui vendent du miel en gros. Ouais. Des centrales ou sur le Bon Coin, on peut vendre des...
Et on peut imaginer...
Moi-même, j'ai vendu du miel sur le Bon Coin en saut de 40 kilos.
D'accord. On peut imaginer qu'un apiculteur qui aurait du mal à joindre les deux bouts se laisserait tenter par l'achat de miel sur le Bon Coin.
Là encore, quand vous achetez, donc ça c'est toujours le consommateur hein, qui doit être vigilant sur ce qu'il achète. Moi, quand je vends du miel sur le marché, j'ai pas 40 000 sortes de miel, je peux pas proposer du miel de lavande ou du miel d'oranger.
Oui.
Mais on vient toujours m'en demander. Alors que,
oui, voilà.
Donc il n'y a pas 40 000 sortes de miel. Moi, j'ai un miel au printemps ou deux, un miel en été, et puis c'est fini.
Ouais.
Les consommateurs, eux, veulent de la diversité, etc. On trouve des apiculteurs sur certains marchés qui ont 15 sortes de miel à vendre.
Là, on peut se poser des questions.
Là, on peut s'interroger.
Donc, tu disais que tu avais une activité professionnelle à côté. Et là, je me demandais quel était ton réseau de distribution en dehors des copains. Donc, tu fais les marchés. Du coup.
Non, je le fais plus. C'était trop chronophage et puis je suis pas vendeur. Donc il y a des gens qui font les marchés pour moi. Non, je revends mes pots.
D'accord. Okay.
Avec mon nom dessus, mon D'accord. étiquette. Bon, okay. Maintenant, je vends plus de sauts parce que j'ai un réseau suffisamment large et du coup, je vends tout au détail finalement.
Ouais, ouais, ouais.
Mais
demande même beaucoup. Hein, tout est écoulé en temps record.
Ouais, je mets en pot, c'est vendu.
Ah wow, d'accord, oui. Ok. Et t'as pas envie d'investir dans des ruches supplémentaires du coup?
T'en as combien de ruches d'ailleurs? Ouais.
Là, centaine, j'ai
tout à l'heure.
Non. Une trentaine de ruches.
Une
centaine de kilos, pardon.
Plus de 100 kilos, ouais. Plusieurs centaines de kilos.
Ah ouais, déclare.
Le 100 kilos. Non, je déclare tous mes revenus puisque c'est très peu taxé finalement. Donc oui, la question c'était quel réseau? Donc c'est toujours circuit court, hein. Des gens qui font des paniers, des choses comme ça, ou de la vente à la ferme.
Et tu n'as jamais envisagé de le faire à titre professionnel, d'en faire ta profession principale?
Alors, oui, mais c'est un investissement qui est très lourd, puisque je ne pourrais pas me contenter de peu de ruches que j'ai.
Bien sûr.
C'est très chronophage. Les métiers dans l'agriculture, bien souvent, c'est un temps énorme pour un revenu
aléatoire en plus, peut-être.
Bah, c'est ça, oui.
Donc, oui, c'est vivre de sa passion. Mais bon, aujourd'hui, j'ai un métier qui me permet de.
C'est un peu comme si Ken Kiyou plaquait tout pour vivre de la musique, quoi.
Ouais, enfin, oui, c'est encore
pas pire. Lui fait du miel, pas de la merde.
Ouais, ça me permet aussi d'essayer de faire un produit de qualité, de pas avoir.
Oui, voilà, après, tu cherches pas la quantité.
Pas de pression, en fait.
Après,
ouais.
À un moment, on a cette pression de l'argent, oui, si on sait complètement.
Et puis du suivi aussi. Alors que, bon, bah là, t'as ton miel d'été, ton miel de printemps, mais t'as pas de. Tu dois pas suivre un goût de référence comme les marques, en fait, de miel. Voilà.
Juste une petite dernière question.
C'est intéressant ce que tu dis. Hein.
Merci.
C'est intéressant ce que tu dis parce que
c'est la première fois qu'on me dit ça.
Non, parce que tu parles justement d'une uniformité de produits. Et donc tout à l'heure, je parlais justement de produits
transformés un peu.
Transformés, et donc qui ont besoin de cette uniformité. Et ils ont besoin d'uniformité de la matière première. Hein. Donc c'est pour ça qu'on retrouve justement tous ces pesticides, etc. C'est pour avoir des champs très propres, pour que le produit soit calibré, qu'il arrive pile poil comme il faut. On ne peut plus se permettre de produire comme on produisait avant, puisque l'industrie, c'est plus la même. Il
faut que les tomates aient la taille des casiers dans lesquels ils vont être rangés pour être transportés, etc.
Donc si les acheteurs ils veulent acheter ça, on est obligé de produire ça. Hein,
Est-ce que, question naïve, est-ce qu'on a une probabilité de retrouver des pesticides dans le miel lorsque des abeilles ont butiné dans un champ
Alors très peu. Général, on n'en retrouve pas dans le miel. On arrive à retrouver un petit peu dans quelques traces dans la cire. Mais on n'en retrouve pas. Pourquoi ? Parce que l'abeille, elle sert de filtre.
D'accord. C'est elle qui absorbe en fait.
Ah, donc les miels sont bio alors ?
Non. Non, parce qu'on peut introduire dans la ruche des pesticides.
Les, oh, putain.
Les apiculteurs eux-mêmes peuvent être utilisateurs de pesticides.
Oui, pour lutter contre les parasites.
Les parasites dont on parlait tout à l'heure. Ouais. Puis il y a d'autres critères à respecter en bio. Mais l'abeille joue ce rôle de filtre. Et donc, si elle avale un pesticide, si elle avale un insecticide, c'est réglé rapidement. Donc, ça pose problème quand c'est des produits à rémanence assez longue, comme certains néonicotinoïdes qu'on a trouvés.
D'accord.
Donc, cela, on peut éventuellement les trouver.
On ne les trouverait pas.
En faible quantité, quoi.
Il n'y aurait pas vraiment de traces parce qu'en fait, ce seraient des ruches qui seraient affaiblies. Et la ruche affaiblie, elle ne va pas nous produire de miel parce que. Et donc, on va quasiment rien. Voilà.
Ok, bah écoutez, on a fait un bon petit tour. C'était intéressant. Vraiment encore découvert Enfin, moi, en tout cas, j'ai découvert un monde que je ne connaissais pas.
Il y aurait encore mille questions à poser, mais on va peut-être s'arrêter.
On n'a juste pas évoqué la fin du monde avec la fin des abeilles. Non, mais c'est un vrai sujet.
On va rester sur quelque chose de positif.
Ouais.
Non, je veux pas.
Juste pour une petite dernière anecdote, je fais partie des chanceux qui ont eu quelques pots de miel à chaque récolte. Et j'en ramène au boulot et je les vends le même prix que Bonhomme les vend.
Avec une petite marge de 10 balles.
C'est quand même la moindre chose.
C'est pour ça qu'il s'est fait péter la gueule.
Et. Toute l'année, il n'y a pas une semaine où on me demande pas est-ce qu'il te reste du miel à vendre. Il arrive quand le nouveau miel,
c'est un truc de fou.
Mais presque, c'est un produit interdit. Quoi. On m'en demande tout le temps.
Donc gage de qualité.
S'il en vient.
Eh ben, on vous invite à aller jeter un petit coup. T'as un site, t'as quelque chose où on peut te retrouver
ou pas? J'ai rien de tout ça parce que j'ai pas besoin de communiquer.
Oui, en fait, c'est vrai.
Enfin, pour les Rouennais, donc je les invite à aller au poulailler de la Grange, un magasin à la ferme à Montmain, qui produit.
Très bien.
C'est pas loin de chez vous.
C'est sur la route en allant chez.
Ok, je vois très bien.
J'y passais tous les jours. Ils font des volailles, etc.
C'est ça, voilà. C'est producteur de volailles qui a un petit peu de miel à vendre. Donc c'est mon miel.
Ok.
Très bien.
Bon à savoir.
Après, pour les gens du Pays de Bray, il y a les paniers de Gaël qui fait quelques marchés dans le Pays de Bray, entre autres celui de Forges-les-Eaux. Et on peut retrouver mon miel aussi auprès d'elle. Après, il y a quelques autres réseaux.
Alors, on l'a pas dit, mais alors pour la pipe au miel. Très, très recommandé.
Évidemment.
Les références que.
C'est pas celui-ci le mieux adapté, j'en ai
rien. Non, je suis d'accord, c'est celui d'été. Le
et il distribue aussi au salon de l'érotisme.
C'est parce que celui-là. Bon.
Hein, c'est pas toi qui en profite finalement.
Non, mais. Non, mais c'est. Le côté granuleux, mais j'ai un peu au printemps, c'est d'accord.
Alors, j'essaye de travailler pour qu'il ne soit pas du granuleux.
Il est très bien.
Il fait retour satisfaction client et tout, il adapte son produit. C'est vraiment un
gâteau. Il fait retour oral.
Freddy, je crains que ça ne soit pas le miel. Hein.
Sans probablement.
C'est granuleux. T'es rentré dans la machine avec la mouche, toi.
Et ben voilà comment finir sur des belles paroles. Freddy, d'ailleurs, justement, c'est sans transition aucune.
Alors, j'ai mon nouveau jingle.
On va voir comment tu te débrouilles. Bah oui, exactement. Avec un nouveau jingle. On remercie quand même Benoît de s'être prêté au jeu des questions et d'avoir gardé son sérieux malgré les embûches.
Tu peux rester, hein.
C'est moi qui vous remercie.
Bien. Et maintenant à nous.
Alors ce soir, on se couchera à Tobouac.
Je vous en prie, restez concentrés. Oh le con, oh le con.
Il est en pleine forme là. Gay, entreprenant, dynamique.
Frappe-moi, con.
J'ai reconnu ta voix et celle de Marius ?
Non.
Ah bon ?
Non, c'était Daniel Prévost.
Ah, le con,
Et puis Jean-Paul Rouve. C'était Jean-Paul Rouve.
Nico, un peu la voix de Daniel Prévost.
Et Lino Ventura aussi.
Ah, tu vois.
Merci à Christophe pour ce nouveau jingle.
Et donc, comment s'appelle cette nouvelle rubrique ?
On se couchera un peu moins con, comme c'est dit dans le jingle. Alors, ça, vous voyez, le but, c'est de
se coucher moins con.
Ouais, comme c'est dit dans le titre. Voilà. Et pour ce faire, pour commencer cette rubrique, je m'appuie sur le questionnaire qu'on avait envoyé à Benoît et qui nous est revenu. Et s'il est un film culte pour notre invité, et peut-être même pour quelques-uns d'entre nous autour de la table, c'est Wayne's World.
Ah, ouais.
C'est vrai, je me trompe pas ?
Ouais. Bah, c'est celui qui...
Il l'écrit en même temps. Hein.
Non, mais il pourrait mentir.
J'ai rempli ce questionnaire, j'ai plein de films qui me sont venus à l'esprit, mais effectivement...
Mais ça tombe bien que tu aies cité celui-là, parce que j'ai quelques infos en vrac à propos du film. Bah, l'occasion de vérifier si Benoît n'est pas un imposteur, s'il connaît vraiment le film sur le bout des doigts.
En bout de 15 fois qu'on l'a vu,
je pense. Bah, ouais, je sais qu'on est au moins 3 à l'avoir vu 20 fois.
On peut répondre aussi, nous, ou pas? Ou c'est que Benoît? Ah ouais, trop bien, j'adore.
Alors, par exemple, plusieurs personnalités font des apparitions. Qui l'a vu? Tout le monde l'a vu?
Non. Qu'une fois au ciné, à l'époque.
T'as pas vu Wayne's World, Ludo, non plus?
Non, jamais vu.
Ah mince, je suis un peu... Bon, mais du coup,
j'ai
ça va
vu que la bonne annonce.
Il va arriver à gagner quand même, ce coup.
Oh non, c'est maintenant.
Mais oui, s'il répond au hasard. Par exemple, plusieurs personnalités font des apparitions, des clins d'œil à la caméra et aux spectateurs dans le film. On appelle ça un caméo, je sais pas si vous connaissez le terme. Les rôles sont plus ou moins riches. Est-ce que vous pouvez, tiens, par exemple, me citer un ou deux caméos de Wayne's World, pour ceux qui l'ont vu?
Comment il s'appelle, celui qui fait Al Bundy?
Al Bundy.
Pas, oui, Al Bundy, mais c'est quoi son nom dans Marié deux enfants? J'ai plus son nom.
Mais là, du coup, il joue un rôle.
Ouais, ah, tu veux dire qu'il joue son rôle? Il y a Rick Rubin, le producteur, je crois. Il y a Aerosmith. Alice Cooper.
Alice Cooper.
Ah, tu parles du 1, parce qu'Aerosmith est dans le 2.
Je parle du 1. Alice Cooper, dont la voix n'a bizarrement pas été doublée.
Ouais. C'est bizarre, ouais, il parle. Bizarre.
On a qui d'autre? Bah, du coup,
quand on regarde le film, c'est un peu dur.
Je me souviens pas.
Benoît, puisque.
Non, mais. T'as revu ça sur YouTube il y a pas longtemps. Et... Non, à l'époque, j'étais pas.
Quand je vais vous Frankie dire, Sharp de Sharp Record.
Non.
Mais on l'a vu une vingtaine de fois.
Robert Patrick.
Ah oui.
Le T-1000.
Le T-1000 de Terminator.
Qui joue effectivement.
Qui joue le T-1000 de Terminator dans Wayne's World.
T'as raison, ouais.
On a aussi, c'est un peu plus dur, Meatloaf qui joue le
leader.
Ah oui.
On a aussi Dana Strum, bassiste du groupe Slaughter, bon là c'est vraiment les connaisseurs, mais qui joue le vendeur du magasin de musique, celui qui empêche Wayne de jouer Stairway to Heaven. Et le dernier clin d'œil, celui de la réalisatrice Penelope Spheeris, qui joue le rôle de la femme dans la cabine lors de l'enregistrement du premier épisode de Wayne's World. Elle se met en scène un petit peu à l'image de, comment s'appelle ce réalisateur de Sixième Sens? La bande son du film est très riche. Elle a aussi reçu le Brit Award 93 dans sa catégorie.
Carrément.
Et si je vous demande si vous devez sortir un morceau du film, ce serait
Star Wars ou Heaven.
Non, Foxy Lady peut-être.
Bah non,
Queen.
Queen. Bohemian Rhapsody.
Bohemian Rhapsody.
Dans la voiture. Au moins un truc que je sais, c'est celui-là.
Tu me sauves ma rubrique, Nico, puisque paragraphe suivant se porte sur Bohemian Rhapsody, bien sûr, qui connaît le film...
Le morceau des Doors.
qui connaît le film ressent une irrépressible envie de secouer la tête à chaque fois qu'il entend le refrain du morceau, même si c'est au volant de sa voiture, et surtout si c'est au volant de sa voiture.
Quand il y a des abeilles.
Alors, plusieurs petites infos concernant ce morceau. Un titre qui était joué sur scène par Queen, mais que se passait-il systématiquement à la troisième minute alors que débute la partie dite opéra.
Dans le film,
le public chantait.
Peux nous mettre un petit peu en fond.
Quand Queen le faisait sur scène.
Oui, quand Queen le faisait sur scène.
Quand Queen le jouait sur scène. Bohemian Rhapsody, cette chanson qu'on entend maintenant. À la troisième minute, commence la partie opéra. Et alors, qu'est-ce qui se passe?
Freddie Mercury ne chante plus, c'est le public qui chante.
Il y a un peu de ça. C'est la bonne.
Il s'en va, il quitte la scène.
Oui, mais pas que.
À poil.
Il y a un cœur, il y a.
Est-ce que t'as moyen de nous emmener à la troisième minute?
J'ai bien sûr
moyen
d'aller
à la troisième. Un truc de fou de science-fiction.
Ah oui, non.
Tu sais faire ça, toi?
Attention.
On est à la troisième minute ou pas?
Oui.
Ah, écoutez bien. Mets un petit peu de son, s'il te plaît. Imaginez sur scène.
Il y a les chœurs qui arrivent, des gens.
Non, au contraire.
Le batteur qui chante Galiléo.
Tout le monde s'en va.
Tout le monde se bat.
Ah, ouais.
Pas le public, évidemment.
Oui.
Tout le monde quitte les musiciens quittent la scène. Mais...
Pourquoi?
Parce que c'est une bande enregistrée.
Exactement, c'est une bande enregistrée parce que c'est trop compliqué à reproduire sur scène.
Toutes les voix sont de Freddie Mercury sur ce passage-là, je crois.
Pas toutes les voix, il y a un mélange de voix du groupe.
Comme quoi, encore une légende urbaine.
D'accord.
Merci, Freddy.
Ah, voilà. Et donc, le groupe sort de scène.
Moins qu'on soit.
Et un playback était lancé. Alors, ça paraît improbable. Hein. Et d'ailleurs, le Freddie Mercury était contre l'idée.
Mais ils ne pas faire autrement.
Oui, ils ont testé plein de formules pour jouer ce morceau en live, pour qu'il soit cohérent. Notamment en faisant des medleys où apparaissait la première partie du morceau, on enchaînait avec un autre, et ainsi de suite. Un morceau joué, on finit avec Bohemian Rhapsody. Et finalement, ils ont trouvé cette solution qui est de passer la bande. Et oui, voilà, c'est à ce moment-là qu'on a envie de boucher la tête. Donc impossible de jouer et de chanter ce passage ô combien complexe.
Bah oui.
certains passages de ce morceau ont nécessité 180 prises en studio. Un autre passage a nécessité 3 semaines de travail juste sur quelques secondes du morceau. Quand ils disent Galiléo,
ouais, il est inchantable.
3 semaines de travail sur ce
pour arriver à mettre en place, en fait.
Il faut savoir qu'à l'époque, 3 semaines, c'était le temps qu'on mettait pour enregistrer un album entier.
Parce que nous, on fait ça maintenant avec couper-coller, etc. Là, c'était avec des bandes.
Chez Kekiou, on fait pas ça.
Attends, j'ai 102 jours.
Ceci explique cela.
Ce morceau est bien sûr un ovni dans l'histoire du rock, aussi complexe que populaire. Dans tous les sondages, les classements sur les meilleurs singles du Royaume-Uni, Bohemian Rhapsody dispute à chaque fois la première place à un autre titre légendaire lui aussi.
La Tite Bee.
Apprécié et repris par dans le monde entier, mais lequel, quel morceau?
David Bowie.
C'est les Beatles, non?
Je vous demande le nom du morceau.
Oui, mais tu peux pas nous dire si c'est les Beatles.
Non, je peux pas te dire si c'est les Beatles.
Bon,
La Tite Bee.
Non, c'est pas les Tite Bee. Et c'est pas les Beatles, pour être.
C'est David Bowie, alors.
Tu veux dire, ça se dispute sur quoi?
C'est plus récent.
C'est-à-dire que si tu fais un sondage.
Wonderwall.
J'allais dire Oasis.
Au Royaume-Uni, pardon. Mm-hmm. Et que tu demandes aux gens quel est le morceau du Royaume-Uni qui est le plus
emblématique,
le plus repris à travers le monde, le plus connu, le plus apprécié.
Les Clash.
Il y a Bohemian Rhapsody et il y a un autre morceau qui ressort.
Ok, réfléchissement, Jean-Pierre.
Quelque chose de récent?
Non.
Un morceau pop?
Ah oui, God Save the Queen.
Comment il s'appelle?
Pop, on peut classer ça dans morceau pop, oui.
Des années 70?
Oui, peut-être même 60, je veux pas dire.
Années 60, rien à voir avec les Beatles et les Stones, alors.
S'il y a à voir.
Finalement, c'est bien quand il y a un petit côté quiz qui reste quand même un petit peu. Je sens
donc c'est les Stones.
Donc Satisfaction, non?
Non, pas du tout. C'est pas les Stones.
C'est les Beatles. Donc ça, non, c'est un morceau des Beatles. Et donc c'est.
Mais non, il a dit non.
Sergeant Pepper Alone is Heart.
Non, il a dit que c'était pas les Beatles.
Bah,
il a
dit.
Bah, il y a une subtilité.
Ah, mais oui, c'est un morceau de Paul McCartney, évidemment.
De John Lennon.
Ah oui, lequel?
Hey Jude.
Non, Imagine.
Mais oui. Cette espèce de scie musicale insupportable. Mais oui, bien sûr.
Alors, je sais pas, c'est autour de la table, là, entre les deux, votre morceau.
Bohemian Rhapsody.
Non, ça va. Le côté un peu cucu, excuse-moi, cucu, j'aime le monde.
Pourtant, on a vachement emballé sur Imagine.
Bah, toi, peut-être, mais. Ouais,
moi, c'était plutôt C'est Jérôme, et tu danses avec lui.
D'accord.
Après, chacun
moi, je l'avais appris à la flûte Imagine, mes parents, ils détestent, je crois.
Moi, c'était sur Rosalie de Carlos.
D'accord. Ah, la version Imagine de Perfect Circle est très bien.
Ah oui.
Exact.
Mais aussi pour dire qu'elle a été reprise, les deux ont été reprises.
Même si ça doit pas être facile de reprendre
Bohemian Rhapsody, ça a été repris.
Il y a bien une vingtaine de références.
Ah bon?
Ah oui, sur YouTube.
Ouais.
Dont certaines assez improbables, certainement.
Oui, avec des réarrangements, évidemment.
Maître Gims encore, non?
À l'autotune, ça fait des miracles.
Alors, sans transition, ou plutôt belle transition, puisque Bohemian Rhapsody, c'est aussi un film, ça vous a pas échappé, un film qui sort le 31 octobre prochain au cinéma.
Je savais même pas.
Si, ouais, mais C'est la vie de Freddie Mercury.
Ah,
oui, ouais, je savais
même pas
quand même.
Du groupe Queen.
Mais qui joue?
Ben oui, justement. Ça a failli être.
Qui a eu beaucoup de mal à se mettre en place.
Ouais, c'est l'acteur
dans sa conception, vous allez voir, c'est assez.
Mister Robot.
Qui joue. Et voilà, c'est Rami Malek. Ouais.
Qui a tout à fait la tronche
de Freddie Mercury. Personnellement, je l'avais repéré dans l'excellente série, Nico vient de le dire, Mister Robot. Un acteur qui.
Qui est assez bon d'ailleurs dans la série.
Oui, qui est assez bon et qui dénote un peu, qui est assez différent de tout ce qu'on a l'habitude de voir. Alors, tout ça pour vous dire qu'il y a eu pas mal de complications, mais savez-vous qui devait initialement.
Oui, Borat, Ali G, enfin voilà, son nom va pas me revenir, mais c'est pas grave. Bruno, j'ai trois films, je viens de donner trois films où il joue.
Sacha Baron Cohen.
Ouais. Sacha Baron Cohen.
C'est lui qui
devait jouer.
Qui devait jouer. Et c'est même lui qui a insisté auprès du groupe Queen, des membres du restant de Queen. Pour initier le film, pour le porter, les membres étaient convaincus, et ils étaient sûrs que c'était lui qui devait jouer parce qu'il n'était pas mondialement connu. Enfin, à l'époque, il n'était pas, il n'avait pas le visage trop connu et qu'on pouvait adapter. Ils étaient persuadés que ça allait se faire. Et puis, à un moment, ça capote. Pour divergence de vues, notamment, Sacha Baron Cohen étant plutôt partisan d'un film un peu cru. Basé sur la vie et les dérives de Freddie Mercury, tandis que les membres de Queen songent plutôt à un film familial, ce qui a l'air d'être le cas. D'accord. A priori, ils auraient plutôt eu le dernier mot. Alors, j'en étais où ? Ah oui, alors suite au, à la défection, au refus du groupe de travailler avec Sacha Baron Cohen, les bookmakers britanniques désignent ensuite un autre acteur pour prendre le rôle, ah. Le désigne favori, on va dire. De qui s'agit-il ? On est en 2013-2014.
Est-ce qu'à toi, ça te semble logique ?
Assez improbable, à vrai dire.
Mais, d'accord.
Improbable ?
Ryan Gosling.
Daniel Craig.
Non. Jean-Claude Duss.
Improbable.
Freddy Lam.
Un anglais, un acteur anglais.
Un acteur anglais, un britannique, j'ai pas précisé.
Connu,
ah, mondialement connu.
Oh non,
Hugh Grant.
Daniel Radcliffe.
Quoi. Daniel Radcliffe, bah, bien sûr.
Incroyable.
Oh oui, non, ça va pas du tout.
Voilà. Et puis finalement, ouais. il a balayé la rumeur lui-même en disant tous ceux qui disent que je ne suis pas du tout fait pour ce rôle ont raison.
Comme quoi, il est assez perspicace aussi, mais, lui.
Et puis tiens, à propos, un caméo se glisse dans Bohemian Rhapsody. Il apparaît furtivement pour jouer Ray Foster, manager de la maison de disques EMI. De qui s'agit-il ?
Pascal Nègre ?
Non. Allez-y, posez des questions, on va trouver.
C'est un des membres du groupe Queen ou c'est...
Non.
Non.
C'est un musicien ? Quelqu'un dans l'univers de la musique ?
C'est un musicien.
C'est un acteur ?
C'est un acteur.
Daniel Craig.
c'est un vrai clin d'œil, pour le coup.
Ah, par rapport à Bohemian Rhapsody, tu veux dire ? Ou par rapport à... Un clavier par rapport à quoi ? Par rapport à...
Mike
Queen.
Myers ?
Mike Myers.
C'est vrai ?
Non.
Excellent.
C'est pas possible.
Mike Myers, le Mike Myers de Wayne's World. La boucle est bouclée. C'est tout pour aujourd'hui.
Comment ça t'est venu ?
J'espère qu'avec cette rubrique, vous coucherez.
Bah, j'ai pensé dire une connerie, en fait.
Merci, Freddy.
Merci, Freddy. Merci, ouais. Ah bah écoute, merci, c'est sympa ce...
On va s'endormir moins bête, hein.
Ah ouais, ouais, ce mélange...
Je sais pas, vous avez appris des choses.
Bah oui, plein de choses. Moi, je préfère quasiment tout, en fait.
Bah ouais. Non, c'est vachement bien.
Ouais, c'est plus varié, en fait.
C'est très bien. Du coup, pour vous, les auditeurs, il n'y a pas de cadeau à gagner. Mais je pensais peut-être...
Faire gagner un pot de miel.
Je me tourne vers la trésorière, mais est-ce qu'on peut envoyer un pot de miel ?
5 euros plus les frais de port.
Et c'est pas cher la pipe, hein.
On vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux, monsieur.
Tout à fait.
Ouais.
Tout à fait.
Allez.
Bah, merci, Freddy. C'était une très belle nouvelle rubrique.
Donné,
en tout cas, t'as tout réussi. Bah, t'as réussi. Malgré tes difficultés physiques, on peut dire que tu t'en sors pas si mal.
Et mental.
Il a tout donné.
Il a tout donné, il a rempli le pot. Bravo, c'est Starlet. Et bien, sur ce, nous arrivons à la fin. Notre dernière rubrique, nos 60 secondes chrono.
On commence par Benoît ?
On commence par
Benoît. Voilà, histoire de le mettre dans le bain.
J'ai rien.
Christophe,
si vous voulez,
tu es prêt ?
C'est parti.
Alors moi, je voulais vous parler du dernier album d'Anna Calvi, intitulé Hunter. Donc c'est une chanteuse guitariste anglo-italienne qui nous offre un nouvel album avec toujours ces très belles guitares saturées. Teinté un petit peu d'électro et une voix et une mélodie envoûtante. Et donc voilà, j'ai choisi un extrait qui illustre un petit peu cette dernière tendance. Allez découvrir Anna Calvi, c'est vraiment une superbe chanteuse en tout cas. Je vous laisse écouter la suite.
Merci Christophe pour cette découverte. Anna Calvi. Ludo, toi, on t'écoute.
Moi, je vais rester un peu dans le thème de l'émission, mais alors vraiment encore de façon encore plus indirecte que tout à l'heure, puisque je vais parler d'araignées, donc ce qui qui sont pas du tout des insectes.
Ce sont même pas des insectes.
C'est vrai, exactement. mais c'est pas grave parce qu'en fait, un coup de cœur, Éclosion, en fait, qui est un roman qui est le premier tome d'une trilogie où je me suis éclaté complètement, qui est un bouquin qui est paru chez Actes Sud, en fait, Exofiction, un roman d'Ezekiel Boone. Alors voilà, c'est vraiment de la série B absolue. Donc, je joue en deux lignes le rapidement. Au cœur de la jungle péruvienne, une étrange et menaçante masse noire s'abat sur un groupe de touristes américains en excursion et les dévore vivants. Dans le nord des États-Unis, un agent du FBI enquête sur le mystérieux crash de l'avion d'un milliardaire. Un peu partout dans le monde, des phénomènes se produisent jusqu'à l'explosion d'une bombe nucléaire en Chine qui transforme tout l'ouest du pays en un champ de ruines. Du coup, En fait, une espèce de catastrophe mondiale se produit. Et effectivement, je vous invite à lire ce roman qui est absolument super rigolo et qui vous chope aux testicules en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Et il y a encore deux tomes et c'est complètement excitant. Le prochain sort en septembre. J'ai hâte.
Complètement excitant.
Merci, merci Ludo. Donc quel enthousiasme.
Je préfère quand c'est Christophe qui fait les chroniques littéraires.
Ah, Christophe quand il aurait pris de la drogue. Ouais.
Donc Benoît, quelque chose à nous partager non, ou pas du tout? Non.
Non, bah, mais je le charrie depuis tout à l'heure parce que je sais qu'il en a pas.
Eh ben écoute, on va pas t'embêter avec ça. On va passer la parole à Arnaud.
Donc je voulais vous parler de Manchester by the Sea, qui est un film sorti fin 2016, un film dans lequel le personnage principal, Lee Chandler, qui est homme à tout faire dans une résidence à Boston, qui est visiblement assez asocial, se retrouve contraint, de suite à la mort soudaine de son frère, de retourner dans une station balnéaire qui est pas très loin de Boston, qui est justement Manchester by the Sea, et contraint d'y retourner, et on va découvrir par bribes son passé et on va comprendre pourquoi il a pas tellement envie de rester dans le coin, ou il y a cette espèce de blues permanent. C'est vraiment c'est un film que j'ai vraiment adoré. Casey Affleck, il est génial, vraiment bouleversant là-dedans, tout en étant très très en retenue. Il a eu l'Oscar, ce qui est pas toujours bon signe, mais là franchement avant de savoir qu'il a eu l'Oscar, je l'ai trouvé vraiment top. Le scénario et le film sont signés de Kenneth Lonergan. C'est pareil, le scénario, la construction, enfin c'est vraiment un film que je conseille vivement.
Merci Freddy.
C'est parti, je vous parle de Wajdi Mouawad. La première fois que j'ai entendu ce nom, c'est lorsque je me suis penché sur le générique de ce film qui venait de me renverser les tripes et les boyaux. Un film qui s'appelle Incendie. Wajdi Mouawad en est l'auteur au théâtre et le scénariste sur grand écran. Depuis, je me suis aperçu que pas mal de pièces dont il a la paternité tournent en France, y compris pas loin de chez nous. Et dernièrement, je suis tombé par hasard sur l'un de ses livres. Oui, le monsieur écrit aussi. Anima, donc voici le pitch. Sa femme a été assassinée et violée. Wash se lance sur les traces du meurtrier, un indien mohawk qui profane les plaies ouvertes dans le ventre de ses victimes, ainsi que fait le mal de la termite, petit clin d'œil animalier, perforant l'abdomen des femelles pour les ensemencer. De cette poursuite du monstre, les animaux sauvages ou domestiques sont les témoins.
Ils
se relaient pour prendre en charge la narration, un roman totémique et animiste. Alors c'est fort, ça vous prend au trip, je disais, au sens latéral, ça va 100 à l'heure, au cœur d'une histoire qui en convoque une autre, plus lointaine. La narration est un pari risqué, si c'est celle des animaux, et chaque chapitre est raconté par un animal spectateur ou acteur de la scène, mais ô combien réussi, un chef-d'œuvre à retrouver aux éditions Babel, ça s'appelle Anima, c'est de Wajdi Mouawad.
Au sens latéral ou littéral? Ouais.
Diagonal.
Merci Freddy. Starlet, tu as trouvé de quoi tu allais nous
oui,
parler?
Oui, alors, un petit coup de cœur pour une petite activité, un petit moment sympa que j'ai passé, en fait, avec mon mari. Sur un terrain de padel, que c'est un sport que je connaissais pas, en fait, c'est du tennis en intérieur, avec, en fait, les murs, t'as des parois de plexiglas et tu peux jouer avec les parois. Le rebond peut... voilà, ça se joue à 4 normalement. Nous, on a joué à 2, mais c'était
tranquille.
Sympa. Tranquille, oui, voilà, on s'est amusé. Et puis aussi, un coup de cœur à Dorothée Piatek, une fois de plus, hein, qui s'est lancée dans la boutique en ligne de ses petites aquarelles qui sont trop, trop mignonnes. Je ne sais pas si on pourra peut-être mettre le lien de la boutique dans le billet.
Oui.
Des petites aquarelles de 10 par 10, en fait, qui sont vraiment superbes. Mon mari m'en a offert une, j'adore. Et voilà, c'est tout.
Bah, c'est déjà très bien. Merci, Starlet. Et je termine avec une BD Blast de l'auteur Manu Larsenet, que j'ai déjà évoqué en coup de cœur pour le rapport de Brodeck. Donc ça faisait très longtemps que je voulais la lire, cette œuvre de 4 tomes et de 800 pages. On me l'a prêté cet été, le frère de Ludo d'ailleurs, et je l'ai dévoré en fait. L'histoire, c'est Polza Mancini, 38 ans, qui est placé en garde à vue pour être interrogé sur la disparition de Caroline Udino. On suit donc le parcours de cet homme, retour à la nature d'un homme qui a tout quitté, qui veut fuir la société, pour mieux apprendre à se connaître. Mais en fait, c'est plutôt une sorte de road trip lugubre et macabre. Il cherche par tous les moyens, notamment psychotrope, à revivre le blast, sorte d'état extatique qui lui fait tout oublier. Une sorte de contemplation introspective d'un protagoniste a priori peu sympathique. Le sujet est très sombre et glauque, avec un dessin et un propos très noir, mais pourtant c'est super poétique et lyrique. J'ai vraiment adoré ce dessin qui est particulier, quasi exclusivement en noir et blanc. C'est très beau, avec une superbe mise en scène et un découpage formidable. Ça peut être éprouvant, je sais pas si je le conseillerais à tout le monde, mais en tout cas moi ça m'a complètement embarqué.
Voilà, voilà. Chers poditeurs, on vous annonce qu'on va conclure l'émission en moins de 2 heures.
Là, c'est un truc de dingue.
Une... c'est incroyable.
Incroyable.
C'est incroyable.
Pas tout à fait, parce que je l'ai déclenché 3 minutes après. Ouais,
ouais. On va s'en sortir. Je vais couper la rubrique de Freddy et puis voilà. Ouais. En tout cas, voilà, effectivement, on arrive à la fin de cet enregistrement. Merci à Benoît d'être venu se prêter au jeu.
C'était vraiment très intéressant.
C'est vraiment très sympa. Ouais. Merci à Freddy de nous avoir accueillis. Hein. C'était à refaire. Oui, vraiment sympa dans ce cadre.
Ouais. Il commence à faire froid un peu, mais...
C'est vrai. Et puis, je vous fais un petit prix pour l'électricité.
Merci, ça c'est cool. Vraiment.
Vu qu'il n'y a pas de chauffage...
En tout cas, on espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie, hein, et puis n'hésitez pas à nous le faire savoir, ça fait toujours plaisir. Vous retrouverez bien sûr, comme on l'a dit plusieurs fois, tout ce dont on a parlé sur l'article du site, hein, les différents billets, les nouveaux, les photos, etc., etc.
Et puis on fera gagner un pot de miel.
Et on fera gagner un pot de miel. Starlet se débrouillera pour l'envoyer. La trésorière.
Elle fournit pas la prestation qui va avec.
Et donc pour ça, vous pouvez nous contacter sur les réseaux sociaux, sur le site Entrepod. On a toujours mis un répondeur, enfin on a toujours laissé le répondeur. N'hésitez pas à laisser un petit message de 90 secondes sur Tipeee si vous voulez nous témoigner de votre soutien de manière financière, sur iTunes si vous voulez nous témoigner votre soutien avec des étoiles, etc. On se retrouve, on sait pas trop quand encore, on n'a pas encore tout à fait décidé. Mais d'ici là, est-ce qu'on peut vous retrouver quelque part, messieurs dames, autour de la table, Christophe?
Comme d'habitude, nulle part.
Ok, très bien. Bah écoute, ravi de te rencontrer là-bas. J'ai hâte.
Toi, on devait me retrouver le 29 septembre à jouer avec le groupe. Manifestement, ce sera le 2 novembre, j'espère, puisque le concert a été annulé. On va me retrouver par contre très prochainement à une espèce d'avant-première d'un one-man show à laquelle j'ai la chance de participer, enfin d'assister.
Un filage,
qui est le filage de one-man show dont on va nous parler prochainement, monsieur Borges. Eh ouais.
Que personne connaît sous ce nom ici.
Alors oui, c'est vrai qu'on le connaît sous le nom de quoi en fait.
De gros con, mais.
Et puis sinon, là j'ai changé de site puisque je serai sur, comment dirais-je, le site Frelon Asiatique. Et mon ami.org où on défend le frelon asiatique contre une espèce de campagne de propagande dégradante, je dois dire, à propos de ce magnifique animal, comme je disais, un peu foufou certes, mais tellement malicieux et tellement attachant. Et je trouve que franchement les abeilles elles en font un peu, puis elles sont un peu provocantes, hein, je crois que c'est
un peu de leur faute,
c'est pas les dernières, voilà.
Benoît, est-ce qu'on peut te retrouver quelque part sur un marché, dans une salle de techno?
On pourra peut-être me croiser lors du congrès international de l'apiculture et de l'apithérapie qui aura lieu à Rouen, donc premier congrès qui est près de chez nous, dernier week-end d'octobre.
D'accord. Ouais, ça au Parc Expo?
Trois jours au Parc Expo avec des conférences donc sur l'apithérapie, l'apiculture.
On est en plein dans l'apiculture, c'est formidable.
Ouais, etc.
On a bien fait de t'inviter en fait finalement.
Mais c'est pour ça qu'on l'a invité.
Ah bah écoute, très bien.
C'est ouvert au public, au grand public?
Alors c'est ouvert à tout le monde, cependant c'est plutôt professionnel du milieu médical pour l'apithérapie et puis apiculture en général.
Et professionnel.
À l'occasion de ce congrès, j'en profite pour dire qu'il y a un DVD qui sort produit par Bobek Productions.
Bobek Productions, ça fait rêver.
Non mais les gens connaissent pas Bobek, mais pour nous c'est assez évocateur.
Sur l'abeille, les apiculteurs en Normandie. Donc je vous invite à aller sur ce
site. Est-ce que tu es dedans, dans le DVD?
Je pense que je ne suis pas dedans parce que je suis plutôt du genre à me mettre de l'autre côté.
T'es pas filmogène.
J'étais présent à plusieurs séances de tournage. Voilà, donc le métier d'apiculteur, etc. sera décrit
super.
Dans ce DVD.
Pourquoi Bobek avait l'air de vous évoquer?
Parce que Bobek la rosière.
Il y a la foire en melon à Bobek.
Il y a la foire en melon. Et puis c'est un
bled
de 200 habitants.
Melon.
Quoi.
Miss Melon.
Et une fois que tu sais ça, tu peux plus prendre Bobek la rosière.
Miss Melon, mais j'adorerais voir ça.
Vous auriez pu croiser Marius il y a 15 jours qui vendait des frites là-bas.
Voilà.
Foire en melon et Miss Melon.
Un clin d'œil à Marius. Oui, il est fait tous les ans. Monsieur Borges, justement, puisqu'on parlait de lui.
Ouais.
C'est qui?
Ah pardon, c'est toi.
Ouais, effectivement, certains me croiseront le 5 octobre.
Visiblement, pas tout le monde à cette table, il y a des choix qui sont faits.
Ouais. Ceux qui ont lu il y a quelques années, ceux qui ont eu droit à une lecture il y a quelques années d'un texte que je vais jouer effectivement en mode chez l'habitant. Et donc, je vais faire un premier filage pour des collègues de théâtre le 5 octobre. et surtout parce que j'ai une date derrière fixée qui est un peu, m'est un peu tombée sur le coin de la tête, le 13 octobre aussi, chez l'habitant. Et puis, bah, j'espère bien, enfin, on verra, quoi. Si j'en fais d'autres, bien évidemment, j'espère bien que.
Ouais, parce que là, pour l'instant, on n'est pas invité.
C'est un mode très peu de place.
En fait, j'ai compris.
En fait, ce qu'il prévoit, c'est que tu l'invites. En fait. C'est un peu le principe.
Ouais, voilà. Non, mais voilà. On aura l'occasion d'en reparler.
S'il y aurait la place, par exemple, pour t'inviter.
Ah, bah, ici, ça serait super. Voilà, mais bon.
Faut faire un peu de voir, quand même.
Attends de voir avant d'inviter.
Ça, rêve pas, hein, c'est pas
du tout. Casser la gueule.
Tiens, monsieur gueule cassée, justement.
Mais moi, vous pouvez me retrouver au CHU mardi pour une attention
au RL. Droit.
Je suis un peu dégoûté pour tout vous dire. Je devais aller jeudi au Silencio à Paris, qui est le club.
Vu le bruit que tu fais quand tu respires, là, c'est foutu. Hein.
Club échangiste.
Le club imaginé et créé par David Lynch à Paris.
Ah,
je vais aller voir un concert en mode privé là-bas et
c'est
je
foutu.
Ouais,
t'as pas une nez creux sur ce coup-là.
Ouais. Voilà, on aurait pu me retrouver là-bas, mais finalement non.
Bon, bah écoute, bah dommage. Je sais pas quoi dire. On a eu un orage. Et toi, Starlette?
Non,
donc,
rien, pareil, je suis au même endroit que Christophe.
Ouais, au mois de novembre, mais peut-être on aura l'occasion d'en reparler. Ouais,
je suis tout seul à jouer.
Ah oui, non, mais tu l'as déjà dit, du
bah
coup,
oui, bah
moi
oui,
aussi.
On va pas le redire.
Voilà,
bah
le
oui,
novembre, et bah, concert, mais.
Très bien, très bien. Et moi, bah, si de temps en temps, peut-être sur YouTube, quand j'aurai envie de refaire des vidéos, puis que je prendrai le temps, et puis. Peut-être sur le site de l'Entrepod, j'ai relancé un billet hier, alors peut-être que le prochain sera dans 15 jours, peut-être qu'il sera dans 6 mois, on verra bien, mais voilà. N'hésitez pas à aller sur le site de l'Entrepod. En tout cas, on arrive à la fin de notre émission, et en général, qu'est-ce qu'on fait quand on se quitte?
Allez, une bite au miel.
Non, c'est après ça. Allez,
bisous.
Bisous, bon pardon.
Bonne pipe au miel.
Qué sería, qué sería, qué sería, qué sería, qué sería, qué sería.